Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudi et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h sur monparisfm.com.
La Côte d'Ivoire, inspirante d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête.
C'est quoi?
Il vous sent
pas? Il
y a un pain.
À lui seulement.
Qui est ta balaise? Coup du matos. Descends, coup du matos. Descends, coup du marais. Coup du matos, c'est coup du matos.
C'est ça. Tu fais ça pourquoi? Y'a un coup de guerre là. Hommage à toi, président Duxaga.
Venez, venez danser.
Tu fais comme
la Côte d'Ivoire, le soir, l'Afrique, ça va chauffer.
Y'a aussi le pain.
On fait ça, mais on t'envole. Ici, c'est la zone de ta gare.
Maggie Dola de Los Angeles, Junior Dola,
Chuka,
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 Marco Diallo,
Chuka,
Chuka, Chuka, Chuka, Chuka,
Chuka, Chuka, Chuka, Chuka,
Chuka, Chuka,
Chuka.
Bien le bonsoir, bienvenue dans l'émission Au bout du foot, 20h33 minutes sur Mon Paris FM. Au bout du foot. Avec Jason Lindor et Léo qui sont donc à la technique. Les consultants sont également là, ici même en studio. Je vais commencer par saluer mon ami Alfred. Salut Alfred, comment ça va?
Salut Malik.
T'as passé une bonne fin de semaine, et bon samedi, et bon dimanche.
Un dimanche un peu fatigant, mais bon, ça va.
Qu'est-ce que t'as fait quoi pour être fatigué, mon cher Alfred?
J'ai dormi tardivement, c'est tout.
Donc t'as regardé la finale de la CAN. Voilà. Faut nous dire ça, justement. Ouais. Comment ça va? T'as bien fêté le sacre de
avec les enfants,
Côte d'Ivoire?
Oui. Avec les enfants, oui. Ils sont bien amusés au maximum.
Bah, c'est le principal. Voilà. Hein. Salut Amadou.
Salut Malik.
Comment ça va?
Ouais, bon, on essaye. Bon, le Sénégal est toujours pas repêché, mais...
Non, mais ça, c'est fini.
On verra l'année prochaine.
C'est fini, ça. Faut digérer ça. Mon cher Amadou, ça fait des semaines déjà. Ils sont nombreux à avoir gagné leur club. Ils ont même commencé à scorer. Donc c'est fini, le côté Sénégal, là, n'est-ce pas? Comment ça va sinon, à part ça?
Ouais, ça va, tout doux. Bon.
Bonne fin de semaine. Bon début de semaine aussi.
Ça va, ça va.
Bah, bah, tant mieux alors. Ibrahima, salut.
Salut, salut à tous.
Bien, ça va. Toi aussi, t'as célébré le sacre ivoirien, troisième étoile.
Oui, ça va. J'ai eu l'occasion de bien célébrer le sacre comme il se doit.
Bah, tant mieux alors.
On est content.
Et la semaine commence bien aussi?
Oui, ça va, ça commence plutôt bien.
Bah, super bien. Je voulais savoir avec Jason, est-ce qu'on a notre ami Stéphane du quotidien du sport en ligne?
Oui.
Salut Stéphane.
Je vous entends. Salut les amis, salut à tous et bravo pour votre couverture de la CAN. Je vous ai écouté hier, c'était super.
Merci beaucoup Stéphane, ça nous va droit au cœur, hein. On travaille pour ça. Et merci justement de ton retour. Et également notre ami Elad va nous rejoindre dans quelques instants. Et également Philippe aussi qui va nous rejoindre autour de cette table. Philippe qui vient de finir justement Mon Paris Sport, il arrive dans quelques instants. Vous avez l'habitude, hein, désormais les amis, on va commencer cette émission par le 30 secondes chrono. Ce sera juste après, mais juste avant, il y a le sommaire. C'est parti.
Au sommaire debout du foot de ce 12 février 2024, 30 secondes chrono. Chaque chroniqueur livre son fait majeur foot. Hors sujet du sommaire en 30 secondes chrono. L'événement au bout du foot, la CAN 2023. La Côte d'Ivoire décroche son troisième titre de champion d'Afrique après avoir été repêché en tant que quatrième meilleur troisième. Face à cette performance-là, la question inévitable se pose. Le sacre de la Côte d'Ivoire est-il vraiment mérité? Au bout du foot, y revient. L'actu au bout du foot, Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad, le PSG en Ligue des Champions contre la Real Sociedad. L'ambition européenne du club de la capitale est-elle freinée par le faible niveau de la Ligue 1? Au bout du foot, livre ses analyses. La rubrique « Quel choix pour quel résultat ?» Voici plusieurs mois que Kylian Mbappé est installé dans l'axe de l'attaque parisienne sous la direction de Luis Enrique. Cette situation est-elle un avantage ou un désavantage pour l'équipe de France en vue des prochaines échéances? Nos chroniqueurs décryptent la situation. Le dossier au bout du foot, Olympique de Marseille, des recrutements tels le Mistral. Stratégie ou cafouillage d'un président au bout du foot, dit tout haut ce que vous pensez tout bas. La question au bout du foot, l'IFAB, l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du football, prévoit d'introduire le carton bleu dans le football professionnel, expulsant un joueur du terrain pendant 10 minutes pour des fautes d'anti-jeu ou des protestations. Cette nouvelle mesure suscite-t-elle votre soutien ou votre opposition dans le monde du football? Les consultants au bout du foot se prononcent. Nous sommes le lundi 12 février 2024. Vous ne rêvez pas, la Côte d'Ivoire est bel et bien championne d'Afrique. Bienvenue.
Merci Jason pour ce riche sommaire. Et tout de suite et maintenant, on va débuter par le 30 secondes chrono. C'est parti Ibrahima.
Alors pour ce 30 secondes chrono, je voulais parler de la défaite du Bayern de Munich ce week-end, 3-0 face au Bayer Leverkusen qui est en tête du championnat. C'est pas la première fois que le Bayern perd cette saison avec plus de 2 buts d'écart. On se souvient qu'ils avaient perdu déjà 5-1 face à l'Eintracht Francfort. Donc il y a des questions à se poser, je pense, du côté de Munich. Et est-ce que Thomas Tuchel va finir la saison? Je me pose la question.
Et quand on parle justement du championnat allemand, forcément, Alfred, tu es là pour répondre. Ibrahima s'interroge quant à la qualité justement de cet effectif munichois.
Je pense qu'Ibrahima, il a déjà anticipé. Donc c'était la chose même que je devais dévoiler. Parce que bon, honnêtement, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Parce que voir le Bayern jouer cette année comme ça, pour moi, c'est pas le grand Bayern. Après, les choix de l'entraîneur, je me demande, il y a beaucoup de doutes. Je ne sais pas s'ils vont le garder. Mais même pour la semaine prochaine, par rapport face à la Lazio, c'est ça?
Oui, c'est ça, face à la Lazio.
Moi, c'est un peu inquiétant pour moi, parce que pour moi, jusqu'à présent, il ne m'a pas convaincu.
Qui ne t'a pas convaincu? Tourelle?
Tourelle, oui, il ne m'a pas convaincu. Depuis qu'il est arrivé, franchement...
Mais là, il y a Upamecano qui est blessé, il y a Coman aussi qui est blessé.
Je comprends bien qu'il y a
C'est quand même deux pièces maîtresses, deux titulaires en puissance.
Hein. Ouais, mais après, il y a Rafael Gamero qui est là aussi. Donc, quelque part, il y a des joueurs qui peuvent jouer. Mais bon, comme je dis, moi, je pense que le Bayern a trop fait confiance à ce gars-là et je pense qu'il ne mérite pas d'être là. Je pense qu'il ne va pas terminer l'année. Hein.
Quand on sait que Nagelsmann a été viré alors qu'il avait des résultats assez positifs du reste, c'est à se poser des questions. Qui c'est qui souhaite réagir sur le cas munichois, justement la méforme du club du Bayern Munich rapidement? Amadou, non?
Franchement, je les ai suivis comme l'année dernière, bon, parce que je suivais un peu Sadio Mané là-bas. On en a fait genre un problème, mais au final... Avec l'effectif qu'ils ont, tous les joueurs offensifs, bon, il leur manquait peut-être un avant-centre. Là, ils l'ont eu. Et là, ils n'y arrivent pas. Il faut se poser des questions. Nagelsmann, on l'a fait partir au moment où il était qualifié en Ligue des Champions. Il était qualifié sur tous les tableaux. On a ramené Tuchel, éliminé en Coupe. Enfin, la saison dernière, déjà. Éliminé après, juste après en Ligue des Champions.
Je crois qu'il avait perdu le match aller, hein, Nagelsmann, contre City, non?
Il avait réalisé une contre-performance dont je n'ai pas souvenir, mais, je crois que c'est au-delà du sportif, Nagelsmann, hein, de ce que j'avais pu entendre.
Oui, parce qu'il ne s'entendait pas bien, je crois, avec les dirigeants.
Oui, oui, c'était un peu au-delà du sportif, me semble-t il, mon cher Stéphane.
Avec Kane et Salihamidžić.
Ouais, ils ne rigolent pas, là, ils rigolent pas, les Allemands. Hein. Et je crois que ceux qui veulent le départ de Tuchel avant la fin de la saison vont être déçus, parce que je crois que Lyonnais, qui est... est président, je crois qu'il est redevenu président du club. C'est un fan de Tourelle, il s'entend très très bien avec lui, donc je ne suis pas sûr qu'il le mette de côté. On peut perdre de temps en temps.
Mais à condition que les résultats ne continuent pas de dégringoler aussi, hein, mon cher Stéphane.
Bah, exact, oui.
Amis ou pas amis, si les résultats vont.
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord, mais ils sont deuxièmes en Bundesliga. C'est vrai que ça va jouer en Ligue des Champions. Pour moi, il n'y a quand même pas photo, l'ombre d'un doute face à la Lazio. On va voir ce qui va se passer. Je pense que c'est présomptueux. C'est sûr qu'il y a quelques tensions internes entre Tuchel et certains de ses joueurs. C'est peut-être un petit peu compliqué par ça. Mais vous savez, j'ai une petite anecdote sur le Bayern d'ailleurs, que vous devez certainement savoir, ceux qui suivent. C'est qu'en fait, il y a deux joueurs qui jouent au Bayern. C'est Kingsley Coman et Harry Kane.
Ouais.
Ils ont la particularité d'avoir toujours gagné quelque chose avec le Bayern depuis toutes les saisons qu'il est au Bayern, il a toujours gagné un titre, chaque année. Et Harry Kane, il n'a jamais gagné un titre de sa carrière.
Ouais, c'est vrai.
Donc, dire qu'il y en a un des deux qui va rompre ce
style. C'est bien que tu évoques ce sujet-là, ouais, parce que pas plus tard qu'hier, dans le débrief de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, je crois que c'est Ibrahima qui disait qu'effectivement, Haller faisait partie...
Du top des attaquants, et là
il était pas du tout d'accord avec ça,
ouais,
on avait relevé justement le fait qu'Harry Kane par exemple faisait partie du top 3 des attaquants mondiaux en ce moment, et c'est bien que tu donnes un peu son palmarès. C'est vrai qu'il est resté longtemps à Tottenham, ouais. Et jusque là il n'a encore rien gagné, ni avec la sélection ni avec Tottenham, son ancien club, et il en prend le mauvais chemin avec le Bayern Munich, sachant que le Bayern est éliminé en coupe et actuellement deuxième de la Bundesliga. Wait and see.
C'est vrai que c'est compliqué. Est-ce qu'ils ont l'équipe pour gagner? Je sais pas.
Non, j'allais dire non, je suis pas d'accord avec vous. Harry Kane, il a déjà gagné un trophée, hein, plusieurs fois. Il a été meilleur buteur.
Il a gagné quoi?
Non, juste meilleur buteur. Je plaisante, bien sûr. Non, trophée collectif, je sais qu'il en a zéro, je plaisante.
Bah ouais, mais tu sais, il y a des joueurs qui ont fait leur carrière comme ça. Tiens, Loris. Ouais. Loris, il est que champion du monde, si j'ose dire, entre guillemets. Hein. Ouais. Loris, il est champion du monde. C'est son seul titre de mémoire. Hein.
Ouais, bah.
Après,
c'est bizarre, mais c'est comme ça.
Après, un joueur qui veut des trophées et qui joue à Tottenham, c'est assez incompréhensible. Donc,
bon, mais Tottenham, c'est un bon club. Hein.
Il y a de la concurrence.
Après,
au niveau
des résultats, c'est un peu juste, mais bon.
Parce que finalement, même une équipe comme West Ham gagne des trophées sur ces dernières années. On l'a vu en Conference League la saison passée, mais Tottenham ne gagne rien.
Harry Kane serait-il le poisseux? Affaire à suivre. Hein, ouais. Parce que si là, avec le Bayern, il n'arrive pas à décrocher un titre...
Ça fera cher la poisse en plus.
Hein. Non, ça fait cher quand même.
100 millions à la poisse.
Ça fait cher le transfert. Ouais. Bien que buteur en plus. Hein. 30 secondes chrono pour mon ami Philippe.
Oui, alors moi, naturellement, c'est le Paris Saint-Germain. Hein, c'est le Paris Saint-Germain et la direction du PSG qui a annoncé officiellement qu'ils allaient quitter le Parc des Princes. Ça paraît inconcevable. L'ADN, l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est celle au Parc des Princes. Alors bon, on a eu l'occasion hier d'en parler avec les élus parisiens à l'inauguration de la salle de basket. Ils nous ont un petit peu rassurés. Ils nous ont dit qu'il y avait encore de minces espoirs. Mais tout ça, c'est en off. Hein. Voilà. Donc Paris Saint-Germain ailleurs, c'est impossible.
Pour toi, c'est impossible?
Bah, c'est pas dans l'histoire du club. C'est pas dans l'ADN du club.
S'ils veulent pas vendre le parc.
Non, mais après, tiens, il y a d'autres problèmes. C'est que naturellement, on peut comprendre qu'ils veuillent se développer. Maintenant, le Parc des Princes, il peut pas faire 80 000. C'est pas possible. Là où il
est. Mais est-ce que c'est en termes de capacité?
Si, bien sûr. C'est en termes de capacité.
C'est une question de capacité uniquement.
Il n'y a pas que la capacité. Il y a aussi moderniser un stade.
C'est juste vouloir posséder le Parc des Princes, c'est tout.
Oui, non. Je pense que c'est posséder le Parc des Princes en vue d'avoir plus grand. Ouais. Quoi. Mais c'est impossible.
Moi, je suis pas certain. Franchement,
Ils sont à quelques millions d'euros près pour acheter le parc des Princes, ça sert à rien.
Oui, Stéphane,
j'ai travaillé sur le dossier et tout. C'est une certitude absolue. Le Paris Saint-Germain a le, quasiment, je pense, le plus petit stade
oui, bah oui.
Des 8 ou 10, ou en tout cas, là, par exemple, tous ceux quasiment.
Le Parc des Princes, c'est quoi ? C'est 35 000 ?
Non, 50 000.
C'est 48 000.
Ouais, c'est 48 000, presque 50 000 si on veut.
Ils veulent le porter au minimum, ils ont un projet, hein,
80, je crois.
Étudié et tout, de le porter à 65, mais c'est le maximum qu'ils peuvent
pourquoi
faire.
Pourquoi ne pas le jouer au Stade de France, même pendant qu'on
mais
y est ?
Mais c'est pas dans l'ADN du Parc Saint-Germain.
Le Stade de France, ça ne veut rien dire, l'ADN.
Mais si, l'histoire du PSG.
S'il y a de bons résultats, t'inquiète pas.
Malik, on va pas les faire jouer Arsenal en fil rouge.
Non, mais c'est des conneries. Non, mais c'est des conneries, ça. À mon avis, c'est des conneries.
C'est pas des conneries.
C'est des conneries. Pourquoi je te dis ça ? Anciennement, avant le Stade de France, l'équipe de France jouait au Parc des Princes.
Oui,
l'équipe de France s'est déplacée aujourd'hui et a gagné sa Coupe du Monde dans le Stade de France. C'est devenu le stade du stade de l'équipe de France désormais. L'histoire, c'est à toi de la créer, c'est à toi de l'écrire.
Justement, Paris a créé.
Paris a gagné quoi ? Paris a gagné quoi au Parc des Princes ? À part la Coupe des vainqueurs de Coupe qui n'existe plus.
Bah oui,
donc Paris aujourd'hui peut écrire une nouvelle histoire dans un stade de France ou dans un autre stade.
L'histoire du PSG, c'est le Parc des Princes. Donc on peut comprendre que voilà.
Moi je suis d'accord avec Malik hein, sur le. Moi je suis d'accord avec. Pas le Stade de France, ils n'iront jamais jouer au Stade de France.
Mais le stade, il ne sert pas, Stéphane. Il y a un match l'année, il ne sert pas.
Il y a du rugby là.
Non, il ne sert pas, mais il va être vendu. Ils ont refusé, ils n'ont pas déposé le dossier. Ils cherchent à le vendre. Et le Paris Saint-Germain était à un moment QSI. Était à un moment candidat et a refusé de vendre parce qu'ils veulent, il est peut-être trop grand, quoi, ils veulent leur stade.
Ou alors on le rase et on fait des appartements. Hein. Ouais.
Alors.
C'est où le parc ? Où le parc ? Où... Non, il ne faut pas dire. Juste, je termine parce que tout à l'heure j'étais coupé sur le dossier. Ils ont, donc ils peuvent le passer à 65 000, c'est 450 millions de travaux. Aujourd'hui, QSI dit on ne va pas mettre 450 millions de travaux dans un stade qui n'est pas à nous. Donc, eux, ils ne veulent pas le faire. Donc, ça, on peut le comprendre. On peut
tout
les
fait,
comprendre.
Légitime.
Toi, tu as une maison, tu es locataire, tu ne vas peut-être pas mettre 50 000 ou 100 000 euros de travaux dans ta maison pour être locataire. Ça, on peut les comprendre. Et on peut aussi comprendre la ville de Paris qui dit le Parc des Princes, c'est Paris, c'est une institution, un monument qui appartient à Paris. On ne vend pas un monument qui appartient à Paris. Alors, ils veulent éventuellement leur proposer un bail. Féodie, je crois qu'il peut être de 50 ans ou 100 ans quasiment, mais le Paris Saint-Germain, et encore, on les comprend encore, ne veulent pas forcément accepter, parce que si jamais ils vendent le club dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, par exemple, c'est une des clauses, à ce moment-là, ils ne peuvent pas vendre le stade avec, puisque le stade ne leur appartient pas. Ils ont acheté le stade, le PSG 100 millions, aujourd'hui, le stade, le PSG vaut plus d'un milliard, donc ça donne de la valeur à un club d'avoir son propre stade.
C'est tout à fait
donc,
normal.
Ils veulent changer. Oui. Et donc maintenant,
on va suivre alors, ça de très, très, très près.
Voilà.
Oui, Philippe.
Jules, deux minutes. Alors, hier.
Non, deux minutes, c'est beaucoup, 30 secondes.
Ouais, allez, 30 secondes. Hier, j'ai eu la chance d'être donc à l'Adidas Arena hein, pour l'inauguration. On a eu des élus de la maire de Paris. La question leur a été posée. Qui a été reprise ce matin dans tous les médias. Le Paris Saint-Germain ne quittera pas le Parc des Princes par Emmanuel Grégoire. C'est exactement ce qu'il a dit. Mais en off, on sait qu'il y a des négociations qui vont reprendre. Voilà. Et dedans, il y a un intermédiaire politique bien connu donc, qui joue les intermédiaires entre la mairie de Paris et donc
un ancien président peut-être,
oui,
non ?
C'est Nicolas Sarkozy, effectivement.
Ouais. Donc, voilà. Dernier petit point, point d'agacement, il faut savoir que ça fait 8 ans que Anne Hidalgo un jour ou l'autre qu'ils vont finir par céder le Parc des Princes. Et puis là,
c'est un revirement, mais c'est ce qui nous a été dit en
fière.
On va
suivre ça de près, très 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 près, les amis. Il faut qu'on avance, mon cher Philippe. Le 30 secondes chrono cette fois-ci. Qui c'est qui n'a pas fait son 30 secondes ? Amadou, c'est parti pour ton 30 secondes chrono.
Enfin, moi, je voulais parler du Bayern, mais je vais parler d'Arsenal, là, qui a frappé un grand coup chez un de ses rivaux historiques, qui est West Ham. Un grand derby, 6-0 là-bas. Donc les Gunners ne sont pas hors course encore et ils se remettent dedans parce que Liverpool perd un peu de terrain, enfin malgré que Liverpool a gagné. Et je sais pas s'ils gagneront à la fin, mais c'est de bon augure. Mais je les vois faire une bonne Ligue des Champions par contre, même si ça n'a rien à voir.
Une sacrée performance justement des Gunners dans ce week-end Je voyais même les supporters partir.
Ils sont sortis à la mi-temps.
Ça, franchement, ça m'a fait de la peine. Hein. Enfin, non, sérieusement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine de voir. Parce que je crois qu'il y avait 4 à 0, non ?
Il y avait 4 à 0 à la mi-temps.
À la mi-temps, il y avait déjà 4 à 0 et les supporters adverses qui quittaient le terrain. C'était assez triste quand même. Quand on sait que les supporters anglais, quand même, sont de façon générationnelle très assidus dans les stades, les voir partir comme ça, c'est dire un peu la déception qui les animait à ce moment-là. 30 secondes chrono pour Alfred, c'est parti. Ah, t'as déjà fait ton 30 secondes ? Ah, mais autant pour moi.
Elle a dit moi, je l'ai pas fait, c'est
non, c'est plutôt Eladj et Stéphane.
Oui, il est arrivé, Stéphane.
Donc, salut Eladj, bienvenue.
Salut Malik.
Alors, 30 secondes, tout de go, c'est parti pour toi.
Bah moi, mon coup de cœur de cette semaine, on va dire, c'est deux coachs. Hein, Xabi Alonso qui a mis une culottée à Tourelle et au Bayern, hein, vraiment. Et là, je pense qu'ils prennent 5 points d'avance. Ça commence à devenir vraiment sérieux du côté de Leverkusen. Et moi, j'y pensais déjà, ça fait déjà un petit moment, même s'ils n'avaient que 2-3 points d'écart. Mais maintenant, ça se concrétise et je pense qu'ils vont vraiment aller au bout. En tout cas, cette équipe-là me fait vraiment plaisir à voir jouer, tout simplement. Et bien évidemment, Pierre Sage qui fait un bilan plus que positif parce que personne n'avait fait un tel bilan que lui depuis 2005.
Là, on parle de l'Olympique Lyonnais, hein, oui. Le club cher à notre ami Eladj, justement.
Je vais commencer à supporter.
L'Olympique Lyonnais.
8 victoires en 12 matchs. Je souffre moins que. Ouais, non,
j'ai jamais regardé le match par contre à Eladj.
Comment ?
T'as peut-être pas regardé le match.
Bien sûr que j'ai regardé
le
match.
Parce que ça s'est joué à
pas grand-chose. Ils ont souffert. Ils ont souffert pendant le match. Mais c'est ça qui est magique. Parce que maintenant, ils arrivent à souffrir et à gagner quand même un match. Ça, c'est l'équipe des grandeurs, j'ai envie de te dire, Stéphane.
Et moi, j'ai vu une image, là, justement, les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui étaient en train de sauter et danser dans les vestiaires. Je pensais qu'ils avaient gagné la Ligue 1, quoi.
Non, mais
Malik,
tout le monde les voyait.
Ça te montre que le club est quand même encore bas, très bas, quand même, quoi. Quand je me rappelle de l'Olympique Lyonnais avec les Juninho, avec les Grégory Coupé, les Michael, les Mamadou Diarra, aujourd'hui on danse parce qu'on est en train de se maintenir.
Non, mais
ça va vite dans le foot. Hein. Oui, mon cher Stéphane.
Entre Marseille et l'Olympique Lyonnais, il y a 8 points d'écart.
Oui, il y a quand même 8 points, c'est beaucoup.
Tu sais que le week-end prochain, on peut se retrouver avec 5 points d'écart entre l'OM et Lyon. Hein.
Mais pourquoi comparer forcément l'OM à
Lyon ? Non, mais je te dis ça comme ça. Lyon,
je comprends pas. Ça veut dire que Lyon
remonte. Il y a Clermont qui est bien en bas. Qui c'est qui est juste en dessous de l'Olympique Lyonnais ? Je ne sais même plus.
Je ne suis pas particulièrement
Non, mais l'Olympique de Marseille, on va en parler. Ça, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas terrible non plus. Mais de là à vouloir forcément faire un comparatif tout en sachant
que Lyon
ne se porte pas forcément bien non plus.
Je pense que Gattuso est quand même épargné. Bref, je parle des clubs, moi. Il y en a un qui est quand même beaucoup plus. Textor a quand même été raillé, a quand même été un peu moqué. Pas nous les premiers, hein, il fait n'importe quoi et tout. Moi, je me cache pas, je dis la même chose de Longoria, donc je me cache pas. Hein. Mais finalement, au bout du compte, je dis simplement que. Alors, il y a peut-être peu de chances que ça arrive, hein, parce qu'il y a Brest-Marseille et Lyon-Nice, donc il faudrait que l'un gagne, l'autre perde. C'est peut-être. Ben, il peut y avoir 5 points hein, quand tu peux dire tout ça pour ça, en fait. Quoi. Voilà, on se retrouve,
je donne juste une petite info. Hein. Moi, je pense que Lyon vont se qualifier en Coupe d'Europe. Que ça soit par la Coupe de France. La Coupe de France, ils peuvent gagner la Coupe de France et aller au bout. Moi, je pense.
Ont battu Lille. Attention. C'est vrai que,
attention.
Ils ont battu Lille,
attention.
Hein.
En faisant tourner. Ouais, hein. Attention.
On va regarder ça de très près.
Mais le simple fait que Lyon puisse se maintenir, ça en dit long sur le niveau du championnat quand même. Je suis désolé.
Ils ne sont pas encore sauvés.
Ils ne sont pas encore sauvés.
C'est pour ça que
6 points quand même d'avance sur.
Et maintenant, il y a moins d'équipes là. C'est depuis cette année qu'il y a moins d'équipes.
Et puis même, quand on voit le niveau des concurrent de Lyon au maintien, c'est assez faible quand même.
Depuis le début, c'est ce que je disais, c'est vous les avez surestimés.
Ah, mais Lyon n'est toujours pas fort. Hein.
Mais j'ai jamais dit qu'ils étaient forts.
Et c'est ça qui me fait peur, moi, justement, pour le championnat.
Mais de là à les voir descendre en Ligue 2, mais c'est inimaginable.
Après, là, ils avaient quand même fait 10 matchs sans gagner.
Vous, je ne suis pas supporter lyonnais. Ils ont peut-être fait 10 matchs sans gagner.
10 matchs sans gagner.
Bien sûr, mais là, en 12 matchs, là, ils ont fait 8 victoires.
Ouais,
c'est pour ça que moi, je vous ai dit que ça remontait très vite.
C'est vrai que ça va vite.
Les amis, le temps presse. On va écouter le 30 secondes chrono de Stéphane. Stéphane, ton 30 secondes chrono, c'est parti.
Ça va aller vite. Moi, c'était juste pour Erling Haaland. Retour titulaire à Lignaland, deux buts et je crois 2 passes décisives de De Bruyne. Alors quand t'as dit ça, t'as tout dit sur la saison de Manchester City, quoi. Il y a peut-être eu un petit creux pendant l'absence de De Bruyne et en plus derrière celle d'Haaland. Maintenant les deux sont revenus, ils vont aller prendre le titre.
Faut pas les condamner.
Alors, Alain, de réaction.
Ouais, bien sûr. Stéphane, franchement, c'est très bien que t'en parles. Parce que j'ai regardé ce match-là et j'ai pensé à toi dès qu'Alain il a ouvert le score. Et quand il a mis le deuxième, j'ai encore plus pensé à toi. Tu sais pourquoi ? Parce que toi, tu disais que sans Alain, City aurait gagné la Ligue des Champions. Et moi, je te disais que je ne pense pas que sans Alain, ils auront gagné la Ligue des Champions. Et tu disais que Alain, autre part, je ne sais pas, en tout cas, il ne sert à rien à peu près. Que Alain ne sert à rien.
Mais cela dit, il est un peu moins bien cette saison quand même. Hein.
Mais il était blessé. Il n'a pas joué. Là, il vient de revenir de blessure. Il est fait gagner.
Même un peu avant, même sa blessure au niveau de ses stats, hein, c'est un peu en deçà de la saison dernière ou je m'abuse là.
Sur la dernière, pour refaire une saison comme l'année dernière, faudra se lever très tôt.
Mais cette saison, il a autant de buts que de matchs. C'est ça qui est magique. Il a autant de buts que de matchs cette saison.
Mais un joueur comme
c'est une impression que j'ai parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu en fait.
Mais un joueur comme Kevin De Bruyne, c'est incroyable ce qu'il propose. Je crois qu'on se rend pas bien compte.
Non mais c'est une tuerie.
Je sais pas si on est prêt à revoir des joueurs comme ça.
Non mais il est monstrueux. De Bruyne, il est monstrueux. Mais j'ai l'impression qu'il a un problème peut-être d'aura ou je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc qui manque pour qu'il soit.
Je trouve qu'on en parle pas assez franchement.
Ouais, on en parle pas assez. Des joueurs comme ça, je sais pas si c'est une question de personnalité, d'aura ou d'envergure comme
ça naturelle.
Moi, je
pense que c'est personnalité. C'est parce que c'est pas quelqu'un qui s'affiche beaucoup, c'est pas quelqu'un qui. Vous voyez, c'est pour ça que cette image-là.
Mais Messi ne s'affichait pas plus que ça.
Messi, c'est pas pareil, Malik. Messi, c'est pas pareil.
S'il vous plaît, comparez pas De Bruyne à Messi quand même.
Stéphane, calme-toi. On parle de la personnalité.
On parle de l'aura du garçon. Non, mais c'est clair, c'est le charisme. C'est l'aura, mais c'est pas que l'aura aussi, c'est le style de jeu aussi. Hein.
Non, mais techniquement, c'est deux grands joueurs de football là-dessus. Il n'y a pas de débat. Mais comment ça se fait qu'un garçon comme De Bruyne n'est pas suffisamment mis en avant par les médias et tout le reste ?
Vous parliez de Messi, moi je pensais dans ma tête un peu quand vous disiez ça à des joueurs comme Zidane par exemple.
Non mais Zidane ça dégage une force tranquille quand même, c'est pas pareil.
Et exactement. Puis il y a le style de jeu aussi. On a beau dire hein, pourquoi les attaquants ils ont tous le ballon d'or et pas les défenseurs ou très peu sauf exception. Des joueurs qui font des dribbles, des gestes techniques extraordinaires et tout quasiment tous les week-ends, c'est vrai que t'as plus envie de t'extasier devant eux, alors que finalement effectivement peut-être au résultat, au niveau statistique et au niveau tout ça, ils sont pas forcément moins bons. De Bruyne n'est pas forcément bien moins bon qu'un Zidane l'était par exemple, mais c'est comme ça, c'est l'aura foot. Je pense pas que ça ait de rapport avec ce qu'il fait en dehors dans la vie, parce que Zidane, par exemple, il était comme ça. Hein. Même Messi, c'est encore pire. Hein. Donc, très, très discret dans leur vie. Mais par contre, c'est sur le terrain, quoi. C'est sur le terrain, quoi. On sait que
Zidane, c'est un Français.
Ça veut rien dire.
Bien sûr que ça veut dire beaucoup. Si, un Français, demain, il est beaucoup plus surcoté, beaucoup plus vendu. T'imagines que De Bruyne, ça sera un Français. De Bruyne, ça sera un Français. Je suis. Oui, mais
l'équipe belge est beaucoup plus cotée que l'équipe de Norvège. C'est Norvège, hein.
Norvégienne. Mais ça n'a rien à voir, Haaland et De Bruyne.
Mais c'est pour te dire que ce n'est pas forcément le fait qu'il soit français.
Si, moi, je pense que ça compte énormément. Moi, demain, De Bruyne, il serait français.
Ça peut compter éventuellement.
Demain, il serait français. Je suis quasi sûr.
Mais ça ne fait pas tout, je veux dire.
Non, je ne dis pas que ça ne fait pas tout, mais c'est peut-être ce qui lui manque.
La preuve, Haaland, il appartient à la Norvège.
Tu veux dire que c'est parce que la Belgique n'a jamais rien gagné, quoi.
Possible que la Belgique n'a jamais rien gagné. Ils n'ont jamais rien gagné et ils ne mettent pas plus en valeur leurs joueurs de football que nous,
justement,
ce qu'on fait.
On reste sur les personnalités et l'aura et tout ça, l'envergure des joueurs. Harry Kane, tu dirais quoi ? Je parle pas de technicité de football pur, en termes de personnalité.
En termes de personnalité,
tu le trouves pas effacé, Harry Kane, bien qu'il soit anglais ?
Si, je le trouve effacé, bien qu'il soit anglais. Mais le problème, c'est quoi ? Il n'a jamais rien gagné avec l'Angleterre. Et en plus de ça, même en club avec Tottenham, c'est ça le problème. C'est qu'il était avec Tottenham, une équipe vraiment. Ils ont fait une finale de Ligue des Champions, mais.
Après, c'est les choix. Moi, je pense que c'est un choix de carrière. Après, c'est les choix. Parce que bon, je pense que lui, s'il va dans un club plus UP, il pourra gagner des choses.
Il sera à City, je suis sûr qu'il aurait au
minimum un club. Au Bayern, c'est pas un grand club déjà, le Bayern.
Ouais. Non, je veux dire, non.
C'est pour ça qu'on parle de lui dans les ballons d'or.
Ce que je veux dire, c'est. Avant, en fait, je parle du fait qu'il soit resté trop longtemps à Tottenham, je veux dire. Il aurait pu aller dans un club anglais plus huppé déjà avant de...
Je pense qu'il est un peu poisseux aussi, ce garçon, à suivre. Hein, il n'est même pas sûr de gagner la Bundesliga cette année, à peine il arrive. On enchaîne tout de suite, les amis.
La Côte d'Ivoire, inspirante d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête.
À présent, les amis, hein, l'événement au bout du foot, hein, c'était hier, hein, la CAN 2023. La Côte d'Ivoire décroche son troisième titre de champion d'Afrique après avoir été repêché en tant que meilleur troisième. Face à cette performance, la question inévitable se pose. Le sacre de la Côte d'Ivoire est-il vraiment mérité? Je vais commencer par Philippe.
Bah écoute, je sais que dans le sport de haut niveau, on retient qu'une chose, c'est le résultat. Donc au niveau du résultat, on ne peut pas nier, hein, la Côte d'Ivoire a mérité son succès. Maintenant, on dira que c'est peut-être pas le plus beau des vainqueurs. Hein. L'histoire du foot et du sport, elle a démontré plusieurs fois. On peut gagner une compétition sans être très brillant, sans être très spectaculaire. Mais si on la gagne, quelles que soient les circonstances, c'est qu'on a quand même su être à un moment le meilleur. Et ça, dans le sport de haut niveau, ça triche pas.
Ibrahima, tu es d'accord avec Philippe ?
Oui, quand il dit que c'est pas le plus beau des vainqueurs, je suis tout à fait d'accord avec lui. Après, maintenant, moi, je pense que quand même la victoire, elle est méritée. Quand on voit le parcours de la Côte d'Ivoire, quand ils sortent miraculeusement des phases de poule, quand on voit tous les adversaires qu'ils affrontent, je suis désolé, c'est des équipes qu'on aurait potentiellement pu voir soulever le titre. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est amplement
là, en
mérité.
En l'occurrence, tu parles
du Sénégal, du Mali, de la RDC. Du Mali, de la RDC et du Nigeria en finale. Donc, quand on voit tout ça, on ne peut pas forcément...
Si tu gagnes, c'est que t'es le meilleur, de toute façon.
Oui,
les meilleurs ne gagnent pas forcément.
C'est que forcément, la Côte d'Ivoire a été au-dessus de ces équipes-là, donc c'est amplement mérité.
Il retient que les meilleurs, hein, dans les résultats.
Alfred, ton sentiment, est-ce que le sacre de la Côte d'Ivoire est mérité en définitive?
À titre personnel, oui, c'est mérité, même concernant ma foi le repêchage. Je crois qu'une année, il y a eu en Coupe d'Europe, le Danemark qui avait été repêché.
Non, c'est l'Italie.
Le Portugal. Le Portugal.
Qui a gagné une Coupe du
Monde. Ah non, le Danemark.
Le Portugal. Le Danemark avait été repêché et avait battu. Avait remporté la.
L'Euro, c'était l'Euro 96.
Non, 92. C'était politique. C'était la Yougoslavie qui était forfait. On avait été chercher les Danois qui étaient en vacances sur la plage. Et qui avaient. Non, mais c'est vrai en plus. Et qui avaient été champion d'Europe et en plus en pratiquant le plus beau football.
Voilà, je pense que c'était cette période où la Laudrup a montré de quoi il était capable. Donc pour moi, ouais, la Côte d'Ivoire, elle a été repêchée. Et puis comme je dis, il y avait une, mobilisation ivoirienne qui était là.
Attends, la seule différence, c'est qu'ils ont été ils ont gagné sur le terrain. Ils ont gagné sur le terrain. Ils terminent 16e, parmi les qualifiés, ils sont 16e. Ils sont 4e des meilleurs 3e. Que le Danemark, ils étaient en dehors de la compétition.
Ouais,
c'est un motif politique qui a été. Voilà, c'est tout.
Oui, c'est un peu plus similaire au Portugal en 2016, finalement. Mais le Portugal avait fait 3 matchs nuls en phase de poule.
Qu'on a dit ça, on laisse Alfred terminer.
Oui. Donc, comme je disais, les Ivoiriens, en fait, la sélection nationale, elle était condamnée à faire quelque chose parce que déjà, même le peuple n'était pas content. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. Avec les 4-0, ils étaient déjà laminés.
Donc, c'est vrai que c'est humiliant.
Ouais, c'était humiliant. Donc, bon, comme je dis, il y a eu un sursaut. Bon, aujourd'hui, ils ont gagné le Nigeria, mais bon, comme je dis, voilà, il la mérite.
Eladj ?
Oui, bien évidemment, la Côte d'Ivoire mérite leur titre. Hein. Une personne qui va jusqu'au bout d'une compétition et qui gagne la compétition, et elle l'a mérité, c'est sûr. Mais maintenant, dire que c'est la meilleure équipe, non, je ne suis pas d'accord du tout.
Qui c'est qui a dit ça ?
C'est...
On laisse Philippe à argumenter. Qu'est-ce que tu entends par meilleur?
La France n'était pas forcément le résultat, il est là. La France n'était peut-être pas la meilleure équipe, la plus belle équipe en 98. N'empêche que.
Toi, tu parles de contenu. Philippe, lui, il est beaucoup plus factuel.
Oui,
il parle de résultats.
C'est ça. Au niveau des résultats, donc, vous n'allez pas être forcément à un moment, tu es dans la douleur. Alors, ça ne veut pas dire que tu es le plus beau vainqueur, ça, c'est sûr. Tu n'es peut-être pas le plus talentueux, mais le résultat, il est là. Un sportif, il est jugé sur le haut niveau, sur son résultat. Donc, à un moment, s'il gagne, c'est qu'il a été le meilleur, c'est qu'il a su à un moment être meilleur, même dos au mur, même dans la douleur, même dans la difficulté. Il a su faire basculer donc les éléments en sa faveur. Et ça.
Philippe Deschamps,
voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai.
Stéphane, ton avis sur le sacre de la Côte d'Ivoire, est-ce que le sacre en question est mérité?
Bien sûr, moi je pense que c'est mérité, bien sûr, ne serait-ce que parce qu'ils sont en finale, et quand ils sont en finale, t'es pas en finale si tu le mérites pas. Voilà. Maintenant, je partage tout à fait l'avis d'Ella, c'est pas pour ça que tout dépend du... D'abord, premièrement, je veux savoir, est-ce qu'il y a un point de règlement qui dit le quatrième repêché n'a pas le droit de gagner la compétition.
Pas du tout.
Il y a 16 équipes qui vont en huitième de finale. Et elles sont toutes sur un point d'égalité. Leur seul avantage, selon leur classement, c'est de supposer avoir des adversaires moins forts en phase 2. Donc ça, il faut arrêter. Il ne faut plus en parler de cette phase de poule. Après, sur les matchs derrière, moi, je pense qu'ils ont fait preuve d'une énorme force mentale, d'une énorme solidarité pour arriver à faire ça. Puis c'est quand même... non seulement je trouve que c'est mérité parce qu'ils y sont, je dirais pas que c'est la meilleure équipe, ça dépend de la définition qu'on donne, et puis après c'est quand même une bonne leçon au foot, au monde, que quand je revois les Ivoiriens qui pleuraient pour récupérer Hervé Renard, sans vouloir payer un centime d'indemnité à la Fédé en plus, quoi, donc, mais qui voulaient récupérer Hervé Renard, la Fédé a dit non, ils ont pris l'adjoint, puis le mec il les a emmenés à la victoire finale, je trouve ça un message.
Donc quand tu gagnes, t'es bien le meilleur. En sport, ça triche pas. Voilà. Quand tu gagnes, c'est bien le meilleur.
Amadou.
Bon, moi, mérite, je suis un peu mitigé. Je dirais qu'ils n'ont pas mérité d'être qualifiés, on va dire. Sinon, bon, à la fin, bon, malgré leur parcours atypique.
Mais pourquoi, explique-moi juste pourquoi. Le règlement, il dit que le quatrième, le moins bon des trois, des quatre meilleurs troisièmes, en fait, on va dire, il est qualifié. C'est marqué dans le règlement.
Après, c'est à titre personnel là, que je réponds. Je veux bien comprendre.
Non, on va demander à Madou justement d'intervenir régulièrement en tant que consultant. Parce que tant que tu mets tes organes là-dedans, tes émotions là-dedans, ça va être difficile.
Je peux te poser une question, Amadou.
Parce que en fait, on va dire à nos auditeurs, hein, on va être clair, Amadou, c'est le supporter du Sénégal. Et il se trouve que la Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal.
Donc il a encore
le seum, tu vois. Il a toujours pas digéré. Ouais. Je suis sûr que si la Côte d'Ivoire élimine, je sais pas moi, le Gabon à la place du Sénégal, tu dis pas forcément ce que tu dis.
Non, même pour d'autres équipes, moi, franchement.
Si le Sénégal s'était qualifié dans des conditions pareilles, est-ce que tu aurais tenu le même discours?
Franchement, en fait,
le Sénégal avait gagné aussi.
Et puis, il y a une autre question. Ouais. Si le Sénégal était si fort,
ouais,
mais il avait qu'à se défaire de l'équipe de Côte d'Ivoire. Première mi-temps 2-0, deuxième mi-temps, on fait un 3-1.
Ouais.
Et puis c'est plié.
Mali, qu'on en revient toujours pareil, c'est le résultat.
Vraiment, là, je parle vraiment que non. Là, sur ce que vous m'avez posé comme question, je parle vraiment que de la Côte d'Ivoire. Non, là, Ibrahima, tu me poses la question pour le Sénégal. Franchement, je pense, après, c'est mon point de vue à moi. Moi, je serais aussi quand même aussi mitigé si ça aurait été la même chose pour le Sénégal, parce que, enfin, chose, je dirais qu'il n'y a rien à voir. C'est comme moi qui est quand même un supporter du PSG, à la Ligue des Champions en mode Covid, même quand ils sont arrivés jusqu'au bout, tout ça, moi, ça ne m'a rien fait qu'ils n'aient pas perdu. Je préférais même limite qu'ils perdent, que pour moi, ce n'était pas la vraie Ligue des Champions.
Pourtant, dans l'histoire, ils auraient eu une étoile et ils auraient gagné. Et
franchement,
et
pour moi, ça aurait
été un titre. Tu ne peux pas dire ça, ouais. Mado.
Ah, moi, franchement,
c'est pas juste une double confrontation. C'était sur terrain neutre.
Ouais, mais
donne ça au Real, tu vas voir si moi, je suis côté.
Le Bayern, ils ont
franchement, enfin. Vous êtes des donneurs de leçons, je pense. Vous passez votre temps à donner des leçons.
Non, après, sinon, en parlant de parcours, bon, sur le final, après, ce qui compte à la fin, c'est l'étoile qu'on a sur le maillot. Comme j'ai dit, j'entends des personnes dont je ne citerai pas le nom, sinon et là j'y serai fâché, mais qui disent par exemple le Sénégal à dernière CAN, ils ont eu un parcours facile. Mais il n'y a pas de parcours facile à CAN, c'est compliqué de gagner à CAN.
Le Sénégal gagne sa CAN au tir au but. Hein. Ouais. Quand tu arrives au tir au but, déjà ça veut dire que c'est pas si facile que ça. Hein.
En fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on gagne la CAN, c'est compliqué de gagner la CAN.
C'est très dur.
Donc il n'y a pas de parcours plus facile, plus autre. Et à la fin, malgré le parcours atypique qu'ils ont eu la Côte d'Ivoire, ils ont gagné. Bon, on retiendra qu'ils ont l'étoile sur le maillot.
Moi, je pense que le Sénégal s'est vu trop beau face à la Côte d'Ivoire. C'est l'impression que j'ai eue quand je les voyais jouer. En plus, le scénario fait qu'ils marquent très tôt. Donc, ça les conforte encore. Et même le coach, hein, inconsciemment, je pense que le coach, il s'est vu trop beau. Et ses joueurs avec. Il les a entraînés lentement, mais très sûrement, on peut le dire aujourd'hui.
Oui, ils avaient fait un premier tour facile.
Ils n'ont pas compris qu'en fait, ils étaient dans un match à élimination directe. Ils ont cru qu'ils étaient encore dans un match de poule. Et là, ils ont été très, très, très naïfs. Et je pense que c'est ce qui a perdu le Sénégal.
Ouais. Non, après, comme on a dit, moi, je parlais vraiment que Côte d'Ivoire. Hein. J'ai dit que. Toujours. Ils ne méritaient pas par rapport
mais
à.
Mais c'est ton avis.
Non, mais c'est ton avis.
Et puis, pourquoi pas, on le respecte, hein, d'où la question. Mmh. Et justement, toujours dans cette Coupe d'Afrique des Nations, quelques chiffres au niveau des distinctions individuelles. Hein, meilleur gardien de la compétition, c'est de la compétition, c'est le portier sud-africain, hein, Ronwen Williams, que vous connaissez tous. Hein. Après, justement, ses arrêts, ses tirs au but successifs comme ça qu'il a pu arrêter. Le fameux, justement, Emilio Nsoué.
C'est le meilleur buteur. Le
meilleur buteur avec 5 buts. Hein. Lui, celui-là, Yaya Fofana, le goal ivoirien, le connaît très bien. William Trostekong, le capitaine, justement, des Super Eagles. Même si hier, il n'a pas volé comme d'habitude. Hein. C'est bien qu'il a marqué le but. Mais bon, la Côte d'Ivoire est arrivée à bout de cette équipe nigériane. Il a été élu meilleur joueur du tournoi.
Même s'il était bon, je trouve que c'est quand même un peu un lot de consolation quand même.
Mais il arrive en finale quand même, hein, tout de même. Ouais.
Et puis, franchement, il a été solide.
Il est très décisif. Ouais. Hein, il marque, décisif. Ouais. Et même en termes de leadership, tu sens bien qu'il entraîne son
même son compère Calvin Bassey, il a été incroyable aussi.
Mais on aurait pu dire aussi c'est qu'au Fofana et peut-être.
Donc je continue de dérouler, les amis. Simon Adingra a élu meilleur joueur de la finale, donc qui s'est joué hier. Toujours Simon Adingra, meilleur jeune de la compétition, 22 ans. Et puis Emers Faye, un meilleur sélectionneur donc, de cette CAN. Ensuite, on a l'équipe type, donc Afrique du Sud, au niveau donc, de Williams dans les buts. On a Mbemba de la RDC, avec justement Trostekong à côté. Aina, Nigeria. Piquel, RDC au milieu. Piquel, je vois pas trop, mais bon.
Parce qu'en fait,
Masuaku sur le côté gauche, Seko Fofana, Mokoena, Nsoué, Osimhen et Lookman.
Non, après,
ça vous semble équilibré?
Oui, ça se tient.
Piquel, c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va au charbon.
Osimhen est un hier.
Non, mais parce que moi, j'ai trouvé justement que c'était le milieu justement de la RDC, notamment face à la Côte d'Ivoire, qui avait justement facilité, entre guillemets, la tâche aux Ivoiriens.
Donc, le vrai problème de la RDC, c'est surtout offensivement où ils n'arrivent pas à mettre en
balle. Ils sont trop maladroits.
Seko Fofana, il a été classé parce qu'il est motivé. Mais sinon, en réalité, Seko Fofana, c'est.
Non, Seko Fofana, il marque le premier but
de
la compétition. Et il est impliqué sur les deux buts face au Mali, qui sont très, très décisifs pour la suite.
Ouais,
donc, tu ne peux pas dire ça, mon cher Alfred.
Moi, je vois quand même comme le meilleur joueur. Enfin, après compétition, il y en a eu plein quand même. Mais après, Trostekong, pour moi, c'est un peu un lot de consolation. Des fois, souvent, ils aiment bien faire ça. Il y a un gagnant.
Ah non, mais il est balèze. Deuxième. Mais moi, avant même que le Nigeria arrive en finale, je le vois jouer. Je demande à chaque fois, mais il joue où ce mec-là? On me dit en Grèce. Je dis, mais il fait quoi là-bas? Mais qu'est-ce qu'il fait en Grèce?
Il est un mauvais agent.
Il m'a l'air d'être costaud. En plus, je crois qu'il a déjà la trentaine passée. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ouais, donc, je sais pas.
C'est un joueur d'expérience. Ouais, il est calme, serein, il rassure sa défense. Ouais, franchement,
en Arabie Saoudite. Hein, non,
tous ses pénaltys, il les met au fond.
Et Malik, le meilleur buteur, il joue en 3e division en Espagne.
Non, mais lui, il a 33, 34 ans. Et puis. Je pense qu'il était surmotivé pour cette compétition-là.
Ouais, des fois.
Et il a eu beaucoup de choix, hein, mais je pense qu'il a été même dans l'équipe nationale des jeunes en Espagne.
En Espagne, ouais.
Et s'il n'a pas confirmé qu'il se retrouve en 3e division, je pense qu'il y a forcément des raisons. Hein.
Il est champion d'Europe U19, je
crois. Avec l'équipe d'Espagne. Les amis, on va progresser. C'est parti. À présent, quand on entend ça, les amis, forcément, on va parler du Paris Saint-Germain. C'est le seul club français qualifié, justement, encore pour cette Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad, ça va arriver dès mercredi prochain. Le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions contre la Real Sociedad. L'ambition européenne du club de la capitale est-elle freinée par le faible niveau de la Ligue 1, mon cher Stéphane?
Forcément un petit peu, mais finalement pas tant que ça, en tout cas pas pour l'instant, parce que comme l'a souligné Luis Enrique par exemple, hein, pour parler de l'actu présente, le Paris Saint-Germain vient de jouer deux clubs qui pour moi sont largement du niveau de la Real Sociedad, Brest et Lille, quoi. Et donc là ils auraient été bien mis dans le contexte, quoi. Donc maintenant c'est vrai qu'à terme
pour toi le Brest-Lille c'est des cadors.
Comment?
Selon toi, Brest-Lille, c'est des cadors.
Non, mais Real Sociedad, c'est très très loin d'être un cador. pour moi, le Brest joue contre la Real Sociedad.
Non, mais sauf que la Real Sociedad est dans la Liga, est qualifiée quand même pour la Ligue des Champions, tout de même.
Oui, donc t'as tes arguments, je les comprends. Mais pour moi, la Real Sociedad n'est pas forcément, aujourd'hui en tout cas, supérieure.
Attends, tourne ta langue cette fois dans ta bouche, s'il te plaît, Stéphane. S'il te plaît, Stéphane, avant de dire quelque chose.
La Real Sociedad n'est pas supérieure à Brest actuellement et n'est pas non plus forcément supérieure à Lille.
Il a rajouté quelque chose, il a dit actuellement.
Actuellement, ouais, je dis actuellement. Je te dis pas si tu avais mis Brest dans le groupe de Ligue des Champions de la Real Sociedad. Non, mais là, je réponds surtout par rapport au fait qu'on me demande si ça affaiblit le niveau de la Ligue 1. Je veux dire, le PSG aurait joué la Real Sociedad il y a 15 jours en championnat. C'est pas ça qui l'aurait mieux préparé pour jouer la Real Sociedad ou en fait son équivalent la semaine prochaine. Ils ont été très bien préparés. Là, pour ce cas-là, je pense que le PSG ne pâtit pas du faible niveau de la Ligue 1. Actuellement, ils vont jouer mercredi. Là, je pense, dans la forme actuelle, sur le papier, la moins bonne équipe, quoi, en prévision des trois équipes qui vont avoir joué les trois derniers matchs. Maintenant, effectivement, ils vont peut-être se surpasser. On l'a vu avec la Coupe d'Afrique des Nations. Hein, peut-être qu'ils vont se surpasser et être super bons. Je crois qu'ils n'ont pas gagné un match depuis je ne sais pas combien de temps. Ils ne marquent plus de buts. Rien ne va plus à la Real Sociedad. Maintenant, peut-être qu'ils vont faire un super match. Ils vont peut-être faire comme Annecy contre l'OM en Coupe de France. Ils vont peut-être faire un super match. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, actuellement, il n'y a aucune influence sur le niveau des joueurs que tu rencontres, des affiches que tu joues.
Alfred ? L'ambition européenne du club de la capitale est-elle freinée par le faible niveau de la Ligue 1, notamment pour l'échéance qui arrive face à la Real Sociedad mercredi?
Ouais, bah après, il ne faut pas avoir trop d'inquiétude par rapport à Paris Saint-Germain.
Tu parles comme Luis Enrique. Quoi.
Parce que bon, voilà, la Real Sociedad, c'est un club moyen. Donc Paris, pour moi, peut gagner facilement. Moi, après, au niveau de la politique parisienne, c'est ça. Parce qu'ils vont chercher des joueurs, ils investissent, mais jusqu'à présent, rien n'avance. C'est un peu ça. Paris n'a pas de grands entraîneurs. Voilà. Quand un entraîneur un peu, je sais pas, sur...
Est-ce qu'on peut dire ça, Alfred?
Oui, parce que...
Il y a Ancelotti qui est passé, il y a Tourelle qui est passé,
je suis d'accord
il y a
Unai
Emery qui est passé. À chaque fois qu'ils partent de Paris, ils continuent de gagner ailleurs.
Non, mais Ancelotti, il est venu à Paris pour un certain temps, mais lorsqu'il a été contacté par le Real, il est parti rapidement.
Non, mais on l'a chassé. Après une défaite face à Reims.
Pour moi, il n'avait pas envie de rester à Paris.
Ouais, il est parti tout simplement parce que le meilleur club du monde a frappé à sa porte.
Non, mais il y avait des problèmes à Paris aussi.
Le Real l'a appelé.
Il n'écoutait pas. Il y avait des. Il n'était pas venu pour un an.
Écoutez, ce n'est pas ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui viennent entraîner, ils viennent aussi avec leurs enfants. Ce n'est pas ça que les gens veulent voir dans le football. Ancelotti, parfois, il reste un cadre. Mais oui, les jeunes, mais c'est les seconds qui ma foi qui font les entraînements et tout, c'est son fils, je sais pas.
Oui, mais ça marche au Real, c'est quoi le problème?
Ouais, mais
le
bon,
cadre il l'a pas eu au PSG. Donc pour ça, il est parti.
Pour moi, je crois pas qu'il avait envie de rester.
Gassé est parti avec son enfant entraîner la sélection ivoirienne, hein, avec Ghislain Printemps.
Écoute,
c'est là pour le coup, ça n'a pas marché. Sauf que chez Ancelotti, ça marche.
Ouais, mais au Bayern, ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'on l'a viré.
Bah si ça marche pas, tu te fais virer, Ibrahima.
Je t'écoute, Ibrahima.
Je pense pas réellement que ce soit la Ligue 1 qui empêche le PSG de gagner quoi que ce soit sur le plan européen. Parce que je suis désolé, mais le Bayern marche sur le championnat allemand et ils réussissent quand même à dominer en Europe. Après, bien évidemment, le championnat allemand, je pense qu'il est quand même un peu supérieur au championnat français, beaucoup même. Mais le Bayern Munich réussit quand même à remporter des choses sur le plan européen. Le réel souci du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain lui-même. Ce sont ses dirigeants et ses recrutements.
Là, tu viens de dire que le championnat de la Bundesliga est bien plus élevé que la Ligue 1.
Donc c'est sûr.
Ceci peut expliquer aussi cela, à savoir que le PSG n'a pas véritablement d'adversité. Bordeaux n'est plus là, Saint-Étienne n'est plus là, Marseille ce n'est plus ça. Lyon, pareil, il n'y a plus d'adversité, il n'y a personne.
Je suis d'accord, mais quand on voit la Bundesliga, je suis désolé. Sur les 10 dernières années, en Ligue 1, en Bundesliga, le Bayern, tous les week-ends, il y a une période où le Bayern mettait minimum, j'avais l'impression de voir 5-0 tous les week-ends pour le Bayern face à ses adversaires en Bundesliga. L'écart entre le Bayern et les autres équipes en Allemagne, il est assez profond quand même. Donc après, c'est sûr que si le Paris Saint-Germain aussi, il y a quand même un certain niveau d'écart entre le Paris Saint-Germain et les autres équipes. Mais si le PSG réussit pas à s'imposer en Europe, c'est tout simplement à cause du PSG lui-même. C'est pas, je pense pas que le championnat ait un réel impact sur le niveau du PSG en Europe.
Bah, comme on dit, hein, si tu n'as pas dans l'adversité week-end après week-end, tu joues en deçà de ce qu'on te propose en Ligue des Champions. Oui, Philippe.
Alors, je pense quand même qu'effectivement, le fait que, bon, là pour la Real Sociedad, il y aura pas de problème, mais le fait que Paris Saint-Germain n'ait pas d'adversaire à sa hauteur, c'est quand même un handicap. Lyon l'a connu.
Si on a dit ça avec Newcastle, au match aller. Hein.
Lyon l'a connu et Malik, il y a une époque que tu as bien connu, hein, un club qui t'est cher, l'Olympique de Marseille, qui a gagné une Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le Paris Saint-Germain à l'époque. Et il y avait des luttes Paris Saint-Germain Marseille, il y avait de la concurrence, il y avait des clubs comme Monaco, comme Bordeaux
Nantes,
et même Nantes, et il y avait quand même un petit peu plus de concurrence. Et bah, dans la dernière ligne droite,
justement, c'est pour ça que nous autres on s'intéresse au championnat français.
C'est pour ça qu'à un moment savoir donner le coup de rein nécessaire. Paris Saint-Germain sait pas le faire. C'est peut-être ce qui explique depuis des années que y a eu des manquements dans des matchs importants du PSG. Bon, là, effectivement, contre la Real Sociedad, ça sera pas un gros problème. Mais après, pour la suite de la compétition, oui, peut-être que ce manque d'opposition peut effectivement poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Maintenant, je suis d'accord avec Ibrahima. Il y a une exception, c'est le Bayern. En Allemagne, ils ont toujours dominé le championnat allemand sans être trop en difficulté la plupart du temps. Hein. Et ils ont le parcours qu'ils ont, c'est vrai.
Et là, et si le problème du PSG était tout simplement mental ?
Il est mental, mais...
Oui, c'est sûr qu'il y a des problèmes mentaux, mais après, moi, je ne dirais pas que... je pense que ça a une partie, le fait que le championnat soit faible, mais c'est une petite partie. On ne peut pas se baser sur cette excuse-là pour dire que le PSG n'est pas performant en Ligue des Champions à cause de ça. Pour moi, ça n'est pas une raison suffisante. Maintenant, des équipes qui sont prenables comme la Real Sociedad, pour moi, là, il n'y a même pas débat. Hein. Le PSG, je pense qu'ils vont gagner avec minimum 2 buts d'écart. Hein. Match aller, ça, c'est confirmé. Je pense qu'ils vont gagner aller-retour en voyant la forme déjà de Real Sociedad et le PSG en voyant aussi ce qu'ils font actuellement. Mais maintenant, oui, il y a des problèmes mentaux. On a vu beaucoup de... une Emery même qui a dit qu'il a été touché mentalement après le 6-1, la remontada, il a été touché mentalement. Tous les joueurs qui ont fait partie de cette remontada ont été touchés mentalement.
Tu dis on souffre encore, hein, même
bien sûr, il y en a qui en font des cauchemars, ils le disent. Ah oui, c'est incroyable.
Ibrahima, rapidement.
Après, pour revenir sur le match face à la Real Sociedad, je pense que c'est sûr que sur le papier, le Paris Saint-Germain doit sortir vainqueur de cette double confrontation. Mais restons quand même concentrés. Je sens qu'il y a un peu autour de la table et pas que. Hein, même, je vois la réaction des supporters. J'ai l'impression que c'est déjà fait. Alors
c'est exactement ce que le Sénégal a fait justement pendant la CAN.
J'ai l'impression que c'est déjà fait.
Mais ils n'avaient pas Mbappé.
C'est sûr.
Ils n'avaient pas Mbappé.
Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est déjà fait. Alors que sincèrement, je rappelle quand même que le PSG a eu du mal à se qualifier dans cette Ligue des Champions, à sortir de cette poule face à des adversaires qu'on avait dit. Enfin, groupe de la mort, ok. Mais...
Tous les adversaires qui sont dans le groupe, dans la poule du PSG, sont au-dessus de la Real Sociedad. Eux tous, AC Milan, Newcastle et Dortmund.
Newcastle aussi ?
Mais bien évidemment, Newcastle, demain, il joue contre Real Sociedad. Je mets une pièce.
Je sais pas, moi personnellement, j'ai mis des réserves sur ce match.
Vraiment, il les démonte. Ah,
mais
vraiment.
Depuis que Newcastle,
surtout que le PSG n'est pas impressionnant, je suis désolé.
Je dis pas qu'ils sont impressionnants.
Le PSG, j'ai pas le souvenir d'un match référence depuis le début de la saison. Enfin, peut-être face à Marseille et encore. Ce week-end, ils ont plutôt bien joué aussi.
Ce week-end, ils ont bien joué, franchement.
Sans Mbappé. Et sans Mbappé aussi contre Marseille, il a mis une bonne tournure.
Oui, c'est vrai qu'il était sorti au bout de 20 minutes, il me semble.
Non, mais attends.
Mais ça fait un moment déjà le match contre Marseille.
Vous êtes en train de me dire que vous êtes mieux sans Mbappé ? C'est ce que vous êtes en train de me dire là ?
Moi, je l'ai toujours dit.
Moi, non.
Attendez, vous voyez, je vais vous prendre. Excuse-moi.
Colomwani m'a pas rassuré ce qu'il
a. Non, mais
on peut être
justement
à la limite.
Regarde, je vais te dire un truc, sérieusement.
Je peux pas dire qu'on est mieux sans Mbappé.
Attends, moi, je vais te dire un truc.
Faut pas dire ça.
Moi, je vais te dire un truc. Il y a une indépendance, Mbappé, ça, c'est sûr. C'est indéniable. Mais maintenant, il y a un meilleur collectif sans Mbappé. Vous voyez ce que Barcola a fait
sur la passe D,
sur le but de Colomwani. Oui. Mbappé ne le fait jamais. Jamais.
Je te l'accorde, mais il a 20 buts.
Mais il ne le fait jamais.
Mais il a 20 buts.
Mais c'est pour ça que les attaquants ne marquent pas. Après, tu vas insulter Colomwani et Gonzalo Ramos. Mais c'est normal qu'il ne marque pas. Il n'y a personne qui les sert. Personne ne les sert.
Mais quand Colomwani est face au gardien et qu'il met la balle dans les tribunes, c'est pas la faute à Mbappé.
Mais c'est un manque de confiance. C'est des joueurs d'habitude en temps normal à Francfort. Ils ont combien d'occasions ? Ils en ont 3-4 dans le match. C'est normal qu'ils mettent 1-2 buts. Ils en ont 3-4 dans le match. Là, maintenant, ils vont en avoir 1,5. Ça va être des ballons. Tu vois, les ballons qu'il a, c'est vraiment des pertes. c'est les ballons que Mbappé a et il sait qu'il ne peut plus les exploiter. Il va les donner.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que Barcola et Mbappé, c'est pas le même apport sur le terrain.
Non.
Mbappé peut se mettre, Barcola peut se mettre au service du collectif et faire des passes décisives.
Quand Mbappé sera au Real Madrid, on verra un meilleur PSG dans le jeu. Moi, je vous le dis.
Collectivement, peut-être. Collectivement, mais je sais pas si ça gagnera plus de trophées. Là, je suis pas sûr.
Si c'est championnat et Coupe de France, crois-moi, ils vont les gagner.
Eladj, on n'est pas en train de te dire que Mbappé fait la passe à Kolo Muani ou pas. On est en train de te dire que Kolo Muani, quand il a le ballon et qu'il est libre de tout marquage, il n'arrive pas. Je ne te parle pas de quand on ne lui donne pas le ballon.
Et ça s'est vu ce week-end, non ?
On te parle de quand il est en position de marquer. C'est de ça qu'on te parle.
Mais j'ai
il
compris
n'est
ça.
Pas bon.
J'ai
compris, non, il y a un problème de confiance.
Non, mais
Kolo Muani en ce moment.
Les amis, je suis désolé. Vous avez du mal à le dire. Kolo Muani n'est pas bon. C'est
mais
pas bon.
J'ai pas du mal à le dire. Je dis qu'il n'est pas bon. Mais je dis, moi, que ça va aller mieux sans Mbappé. Moi, je le dis, honnêtement. Bah oui.
Non mais je veux
et
bien.
Le PSG supportera
mieux
sans
Mbappé. Encore, on est encore dans le souvenir de la Coupe
Mbappé
du Monde.
Mbappé sera épanoui au Real Madrid.
Pas de problème.
Aussi.
On est encore dans le souvenir de la Coupe du Monde. C'est vrai que quand il est rentré, il a apporté un vrai truc à l'équipe de France. Ça nous a permis de remonter l'Argentine. On est encore, on est beaucoup patient avec Kolo Muani juste pour cette finale.
Non.
Toi, on est très patient avec lui. Il a un crédit encore là. Amadou.
Non.
Sur le PSG.
Ouais, sur le PSG. Bon, c'est sûr que là, avec les clubs, avec tous les joueurs qui perdent dans n'importe quel championnat, les autres clubs du championnat français, ça fait moins de concurrence pour le PSG. Bon, maintenant, je pense que là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu baissé de pied en championnat parce qu'ils ont toujours dans leur tête la Ligue des Champions de pas se vautrer, quoi. Et même là, des fois, on voyait qu'ils délaissaient un peu leur match, ils faisaient un peu tourner. Je pense qu'ils ont vraiment la tête à être en Ligue des Champions et peut-être même essayer d'avancer doucement.
C'est exactement ce que je disais. Je plaisantais, mais en même temps, il y a un fond de vérité là-dedans.
Ouais.
Quand je disais qu'ils avaient la même attitude que le Sénégal a eu durant cette CAN, c'est un peu la même chose. Ils n'ont pas encore joué le match, ils se projettent déjà parce que dans leur tête, c'est la Real Sociedad.
Après,
et c'est là où je rejoins Ibrahima.
Ouais.
Il faut être très attentif. Parce
Il ne faudra pas les prendre deux, c'est sûr.
Or, c'est inconscient, mais j'ai l'impression que c'est déjà plié pour le PSG. Oui,
je voulais revenir par rapport à ce qu'on se disait avec Eladj tout à l'heure. On disait que le PSG allait être mieux sans Neymar. Je suis désolé, mais aujourd'hui...
J'ai jamais dit ça.
Pas forcément toi. Pas forcément les gens qui sont autour de la table. Les gens, t'arrêtais pas longtemps que le PSG allait être mieux sans Neymar et mieux sans Verratti. Bon, Verratti, il était au bout, il produisait plus rien sur le terrain. Donc voilà, mais aujourd'hui, sans Neymar et sans Verratti, je suis désolé, mais c'est pas mieux. Et finalement, quand on regarde l'effectif du PSG, c'est les deux profils qui manquent à cette équipe. Il manque un meneur et il manque un réel milieu de terrain.
C'est peut-être pas mieux. Je pense que
c'est les deux profils qui manquent au PSG.
C'est exactement ce que Luis Enrique veut, je pense. Il veut vraiment avoir des jeunes, style Barcola, Zaïre Emery, qu'il va façonner.
Ouais.
Et est-ce que c'est pas justement, ça va nous basculer sur le prochain sujet, est-ce que c'est pas pour ça aussi, même qu'il est en train, entre guillemets, de faire un peu péter les plombs à Kylian Mbappé en le mettant dans l'axe? Ce sera d'ailleurs le prochain sujet avec le concours de notre ami Jason. C'est parti. Des presses en ébullition, je sens Amadou là, surexcité là, un peu. T'as l'impression d'être au parc là.
T'imagines.
Alors on est en plein, les amis, dans la rubrique. Ouais. Quel choix pour quel résultat? Voici donc plusieurs mois que Kylian Mbappé est installé dans l'axe de l'attaque parisienne sous la direction de Luis Enrique. Cette situation est-elle un avantage ou un désavantage justement pour l'équipe de France en vue des prochaines échéances? Eladj.
Ça change pas grand chose. Honnêtement, ça change pas grand chose. Mbappé, c'est quelqu'un qui s'adapte et il se prépare aussi à dépanner de temps en temps en pointe côté Real Madrid. Du coup, je pense que c'est bénéfique pour les deux.
Attends, tu le vois déjà au Real.
Bien évidemment.
Et Alfred.
Je rejoins Eladj, ça va rien changer à tout le positionnement, que ce soit en pointe. C'est un grand joueur, c'est un grand attaquant. Moi, qui passe en sélection nationale, qui reste au club. Là où il sera mis, il fera preuve de grand attaquant. C'est quelqu'un qui est décisif. Donc pour moi, c'est un tueur. Donc il n'y a pas à changer quoi que ce soit. Peut-être il obéit à ce que l'entraîneur demande, c'est tout.
Non, mais il y a un truc aussi, les amis. Je ne sais pas si vous avez bien.
Il ne sera pas en baisse, hein, ça, il faut retenir.
Non, mais ça, tu ne peux pas savoir, parce qu'il court moins déjà dans les matchs. Tout le monde sait que la force, une des principales forces de Mbappé, c'est la vitesse.
La percussion aussi, ouais.
Et aujourd'hui, ouais, il court moins sur le couloir. Je suis désolé, mais quand tu ne t'entraînes pas dans ce qui est ta force, tu perds. Et en équipe de France, il est là, il court vite. Quand il peut centrer, il centre. Comme on a un Giroud qui est très bon de la tête, ça fait souvent filer. Ouais. Et quand lui-même, il peut scorer, il score. Mm. Donc, le fait de le mettre dans l'axe aujourd'hui, est-ce que justement, ça ne va pas désavantager ? C'est ça la question. Hein ? Est-ce que ça ne va pas désavantager l'équipe de France, cher Stéphane ?
En fait, ce que tu es en train de dire, Malik, c'est que le fait de jouer dans l'axe va faire qu'il ne va plus arriver à jouer sur le côté ou être aussi déterminant.
Il sera à force moins bon, je pense.
Ouais.
Donc, moi, parce que sa force, c'est sa vitesse.
Comme là, quoi, c'est un attaquant, tu le mets partout, il sait jouer. Et puis, est-ce qu'il joue ? C'est aussi encore des bons. Pour faire des débats. Bon, on est là on est ici pour ça. Mais bon, est-ce qu'il joue vraiment neuf, tout le temps neuf, à Paris ? C'est aussi autre chose. Hein. Je ne suis pas sûr que si tu fais une map de ses déplacements, tu n'en as pas au moins 30 ou 40% sur le côté.
Stéphane, selon certaines indiscrétions, il n'est pas du tout content de jouer dans l'axe. Hein.
Oui, mais selon certaines indiscrétions, puis selon certaines indiscrétions, avec des selons, c'est plus avec des si, mais avec des selons, on dit il s'entend pas du tout avec Luis Enrique, et puis selon ceci et selon cela. Moi, je pense surtout que Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs du monde et qui joue des meilleurs attaquants
c'est pas ça la question, Stéphane. La question, c'était de savoir si c'était un avantage ou un désavantage, justement, pour l'équipe de France.
Bah oui, ben moi, je pense que...
Les meilleurs attaquants du monde, c'est indéniable.
Ni l'un ni l'autre. Ce qui est un avantage pour l'équipe de France, c'est qu'il continue de marquer des buts. Si, effectivement, il avait fait...
Mais l'équipe de France a un dispositif. On sait très bien que Didier Deschamps utilise beaucoup la vitesse de Mbappé pour mettre Giroud, ou même peut-être parfois même Colomouani, ou même Marcus Thuram, dans l'axe. Aujourd'hui, il se retrouve régulièrement dans cet axe du club parisien, est-ce qu'il va retrouver toutes ses sensations une fois qu'il sera en équipe de France sur le couloir gauche ?
Moi, je pense que oui, mais à la limite, je peux même répondre si ça marche si bien que ça dans l'axe avec le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui dit qu'il peut empêcher Didier Deschamps de le mettre plus dans l'axe avec l'équipe de France ? Parce qu'on est quand même, je sais que vous êtes tous, ou en tout cas la majorité des idolateurs de Olivier Giroud, mais on est quand même d'accord qu'on a derrière lui plus d'avant-centre quasiment.
Ça y est, ça recommence.
Respecte le meilleur buteur de l'équipe de France.
Voilà, exactement. D'autant plus que je parle derrière lui. D'autant plus que Colomouani est aussi mauvais que Malik le pense.
C'est pas moi qui le pense, ce sont les stats. Hein.
On peut s'inquiéter un peu.
Même qu'Aubameyang au-dessus de lui, c'est te dire.
Imaginons pour éviter un débat qui va nous emmener au bout de la nuit. Imaginons que Giroud il se blesse avant l'Euro, il peut pas jouer l'Euro. Tu mets qui en numéro 9 en équipe de France aujourd'hui ?
Marcus Thuram.
Voilà, Marcus Thuram. Deux buts, je crois, en équipe de France, puisque à l'instant,
combien de matchs
vous m'avez mis les...
combien de matchs
peut-être 20, je sais pas, peut-être 20 matchs, deux buts en tout cas. Bon.
Non, mais moi je vois bien un garçon comme Barcola rejoindre cette sélection pour l'Euro. Oh. Hein. S'il continue ses performances, il a une capacité d'élimination.
Bah, Coman est blessé.
Ça peut vraiment servir. Je le compare un peu à Dingra hein, pour la sélection ivoirienne, par exemple. Il rentre presque au milieu de la compétition et on se rend compte qu'à la fin, il débloque. Et je pense qu'un joueur comme Barcola, il peut ne pas partir en titulaire,
il
peut débloquer certaines situations.
Malheureusement, il se blesse tout le temps, c'est Nkunku, qui serait vraiment bien.
Il faut lui donner le temps de revenir, lui.
Il est revenu, il s'est blessé.
Il était blessé, il n'a pas trop joué.
La super saison qu'il a fait en Allemagne à Leipzig, quand il a terminé, je pense, il n'a pas été meilleur buteur même de
si,
Donc pour toi, Stéphane, pour toi, Stéphane, c'est pas un désavantage de voir Mbappé dans l'axe de l'attaque parisienne.
C'est même un avantage.
C'est un avantage pour toi, Stéphane.
J'aimerais bien le voir à ce poste-là en équipe de France.
Bah, ah mais tiens.
Ouais, ben bah moi je suis d'accord aussi. Je pense que il a tellement de talent. Alors qu'il joue à l'aile ou devant, ça change pas grand-chose. Il joue devant au Paris Saint-Germain contre un.
Il va à gauche.
Pratiquement.
Quand il veut.
Ouais. Il marque 20 buts ou 21 buts cette saison. En championnat, hors Coupe de France et Ligue des Champions, ça change rien. Puis effectivement, je suis d'accord. Après tout, si ça peut être une solution aussi de, je veux pas dire de rechange, mais presque pour Didier Deschamps par rapport à Olivier Giroud. Donc il a tellement de talent que ça changera pas grand chose pour Mbappé. Puis c'est vrai, comme dit Stéphane, il bouge beaucoup quand même dans dans les surfaces. Hein. Il bouge beaucoup.
Bah, je suis d'accord avec ce que dit Philippe. Mbappé bouge beaucoup sur le terrain, un peu comme Cristiano Ronaldo, on le voyait. Hein. Finalement, il commençait un poste, mais il bougeait beaucoup dans la surface adverse. Maintenant, pour revenir par rapport à l'équipe de France, je ne pense pas que c'est un réel impact. Mais par contre, comme l'a dit Alatch tout à l'heure, c'est plus par rapport à son futur club, le Real Madrid, là. Peut-être que ça pourrait être intéressant, oui.
Mais il sera sinon... peut-être obligé de bouger aussi, hein. À Madrid,
ça pourrait être intéressant. Et...
Hein. J'ai hâte qu'on se retrouve pendant cet Euro. Ouais. J'ai envie d'entendre quelqu'un qui va venir me dire « Ouais, mais Mbappé a perdu de sa vitesse. » On en reparle. Alfred, je vous connais. C'est pour me dire « Ouais, il a perdu sa vitesse, c'est plus le même. Avant, il avait un coup d'accélération, il marquait, machin. »
Non, mais ça ne va rien changer. Qu'il joue en pointe, pour moi, Mbappé, quand il va retourner en sélection nationale, même que l'on le place partout, voilà, c'est quelqu'un qui est... Il est capable de tout.
Il a beaucoup de talent.
Voilà, il bouge. Donc, même pour l'arrêter, les défenseurs ont des difficultés. Soit tu penalty ou voilà, tu prends un carton, tu sors. Donc, pour moi.
Donc, à suivre, Amadou.
Je pense quand même ça serait quand même un peu gênant parce que c'est vrai, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est sur ça qu'il a fait sa force, percuter, voilà. Courir. Là, lui comme il a envie de décanter les choses, être le super-héros, il ne va pas vouloir attendre en pointe qu'on lui donne des ballons. Il faudra faire les choses de lui-même. Et c'est vrai que. Ça va être compliqué, c'est admettons, parce que pour l'instant on n'en sait rien du tout. Hein. Le PSG qui veut qu'il aille au Real.
Non, une chose est sûre, c'est que pour l'instant il joue dans l'axe. Hein.
C'est sûr, ça sera complexe au Real parce que la place où il est, celle de Vinicius. Donc je sais pas comment ils veulent faire. Comment ils vont mettre en place leur.
Il jouera à gauche, il jouera à droite, il jouera au centre.
Ou sinon, ils laisseront faire l'électron libre, mais à mon avis, il ne voudra pas rester. Entre guillemets, à rien faire, attendre les ballons devant.
Surtout que Vinicius, en ce moment, il est en pleine bourre. Il est au summum de sa carrière, là, en ce moment. Avec Bellingham, c'est un
duo. Il vient de se blesser, d'ailleurs, c'est un crève-cœur. Mais bon.
Encore Vinicius, c'est
blessé. Bellingham.
Bellingham, ouais.
En temps de la Juve.
Il y a Brahim aussi qui prouve à chaque fois.
Brahim Diaz, bien sûr.
Excellent. Techniquement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un joueur comme ça.
L'année prochaine, Rossellon, on le vend 50 millions, j'espère.
Il a 34 ans.
Parce qu'il est passé au Real, c'est pour ça que sa cote a dû remonter.
Il a la trentaine.
Oui, mais vous savez qu'il est à autant de buts que Lewandowski. Moins de matchs que Lewandowski et autant de buts.
On a fait Kylian Mbappé, on va partir justement du côté de Pablo Longoria, on va partir à Marseille. Le dossier au bout du foot, Olympique de Marseille, des recrutements tels le Mistral. Stratégie ou cafouillage d'un président ? Au bout du foot, dit tout haut ce que vous pensez, tout bas. Ibrahima, tu peux nous dresser rapidement, s'il te plaît, les résultats de notre ami Longoria depuis qu'il est à la tête de ce club, là, justement au niveau des recrutements.
Alors, Pablo Longoria, d'abord arrivé en qualité de gestionnaire des secteurs économiques et sportifs du club en 2020, a réussi à monter les échelons un par un, pour passer directeur sportif, puis devenir président du club. Aujourd'hui, en tant que président du club, comme l'a très bien révélé le journal L'Équipe aujourd'hui, pas moins de 171 mouvements dans les sens des arrivées et des départs sont venus agiter le quotidien de l'Olympique de Marseille depuis qu'il a rejoint le club en 2020.
Alors, mon cher Stéphane, stratégie ou cafouillage de Pablo Longoria au niveau de l'Olympique de Marseille.
Cafouillage complet, même pire encore. parce que de mémoire, c'est 171 mouvements, mais de mémoire, je pense que c'est peut-être une balance, je crois, des transferts qui doit être à moins 180 millions entre les ventes et les achats depuis qu'il est arrivé à l'OM. Alors, c'est tout. Moi, je pense que c'est cafouillage complet. Comme je le disais déjà tout à l'heure un peu par rapport à Textor, j'arrive pas à comprendre, moi. J'arrive pas à comprendre les banderoles dans le stade sur McCour, dégage, sur ceci, sur cela. McCour qui donne du pognon et celui qui s'en sert, ce pognon, c'est Pablo Longoria, celui qui achète Vitinha, celui qui dit à Guendouzi de dégager, d'aller à Lazio, celui qui n'insiste pas, je vais pas dire qu'il avait tort, pour garder Alexis Sanchez, c'est Longoria, celui qui ne garde pas Tudor, c'est Longoria. Et quelque part, je pense que c'est pas que les transferts, mais effectivement, en tout cas, à travers les transferts, c'est incroyable, quoi. Prendre l'Audi, mais ça n'a même pas de sens, quoi. Je veux dire, je suis Villas-Boas, il avait démissionné, lui. Il aurait démissionné, lui, pour un coup comme ça. Je prends l'Audi au mois de juillet, je le vends en Arabie Saoudite au mois de janvier parce que je peux gagner 7 millions. Au total, je crois qu'il y a 7 millions de gains. Donc, c'est n'importe quoi, faut reconnaître ce qui est. Moi, il n'y a aucun joueur qui sont arrivés à l'OM, là, qui ont été pris, qui ont l'air particulier. Si pour l'instant, on s'enflamme pour le Camerounais, là, parce qu'il a mis un but et qu'il a fait un match très correct.
C'est ton copain, là, il s'appelle comment, là ?
Mumbagna. Faris Mumbagna.
Mumbagna, voilà.
Voilà. Mais non, moi, sincèrement, je pense que c'est n'importe quoi, mais je dirais, les transferts en France, on ne sait pas les faire, quoi. Je veux dire, Lyon, c'est pareil, même si Lyon, ça va mieux, au lieu de prendre 7 joueurs, dont la plupart avec des profils insensés, ils prenaient 3 joueurs, même parmi ceux qu'ils ont pris, hein, peut-être Orban, Matic, et puis le gardien, si un jour, décide enfin de mettre Lopez sur la touche, et ça aurait suffi. Non, je pense que c'est n'importe quoi. Non,
excuse-moi de te couper, Stéphane. Toi-même, tu disais, franchement, Benrahma, j'y crois peu. Franchement, s'il l'enrôle, c'est un très bon transfert. C'est ce que tu disais, Stéphane.
Ouais.
Ils ont enrôlé Benrahma. Maintenant, tu peux pas. Et Mangala, maintenant, tu peux pas ne pas les citer.
De toute façon, le vrai truc, c'est le terrain.
Je pensais pas. Moi, je pense qu'il aurait dû prendre seulement 3 joueurs. Bon, je ne suis pas recruteur et puis pour l'instant ça marche bien. J'étais sûr qu'ils allaient se planter complètement. Alors c'est peut-être Benrahma effectivement parmi ceux qu'il fallait prendre. Matic sûr. Orban, il a l'air sympa, il a l'air bien d'être un bon joueur, donc ça allait être intéressant. Malik Fofana, je ne suis pas sûr qu'il avait besoin de ça pour essayer de sauver sa place en Ligue 1. Mais bon, on parle de l'OM là. Donc l'OM, je pense que l'OM c'est encore pire.
Donc pour toi c'est cafouillage.
Ils n'arrivent pas à vendre ça, ils n'ont pas réussi à vendre ça. Ils vont faire quoi, dit Ismail Assar, qu'ils ont acheté là.
Apparemment, il y a Villarreal qui le veut là. Eladj, ouais, cafouillage ou stratégie pour toi, Eladj ?
Cafouillage ou stratégie pour les transferts, etc. Bah, franchement, pour moi, c'est de la mauvaise gestion. Après, moi, je ne pense pas que Pablo Longoria soit le seul responsable de tout ça.
Ah, c'est le président, hein. Je suis désolé.
Oui, bien évidemment, c'est le président. Mais franchement, tu vois l'attitude des joueurs sur le terrain. Moi franchement. Parce que on aime beaucoup critiquer l'entraîneur, le président, les actionnaires, mais c'est pas eux qui jouent. Franchement, on met des joueurs professionnels qui sont payés, ils n'ont pas de retard sur leur paiement, ils n'ont pas ce problème-là dans la tête, ils sont sur le terrain, on leur demande de jouer au football, ils ne jouent pas. Ils ne mouillent pas le maillot, ils ne le mouillent pas. C'est pas des joueurs qu'on voit jouer et se donner à fond et perdre les matchs. Non, c'est pas ça qu'on voit. On voit des joueurs sur un terrain qu'ils ne veulent pas jouer, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de directive.
Après, ils ont rien. Excuse-moi de te couper la parole, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est les joueurs qui jouent et finalement, c'est pas Pablo Longoria qui joue, mais... Dans un club où tu ne sais pas si tu vas rester, si dans 6 mois tu seras là ou pas, où c'est le bazar complet, c'est compliqué de se projeter et de savoir quoi faire sur le terrain finalement. Renan Lodi, il a dû faire 15 matchs, il est en Arabie Saoudite. C'est compliqué de s'investir dans un club où on ne sait pas si on peut se projeter. Un joueur comme Alexis Sanchez, il fait une bonne saison, il n'est plus là. Guendouzi, il a raté un penalty, il n'est plus là. Enfin, c'est compliqué. Hein. La gestion de Marseille,
Payet aussi.
Payet aussi. J'ai pas compris pourquoi ils ont laissé partir Payet aussi.
Payet, tu ne faisais plus jouer. Tudor,
Mal passé. Ceux qui sont là, ils sont pas plus forts que lui. Je suis désolé.
Alfred.
Donc c'est compliqué.
Moi, je suis quand même étonné.
Dans le micro, s'il te plaît.
Je dis que jusqu'à présent, Marseille n'a pas de projet.
Parce qu'on prend des joueurs de fin de saison, de fin de carrière, ils arrivent. Vous jouez quoi? Rien du tout. Donc pour moi, jusqu'à présent, rien n'a changé. Après le départ de Tapie, on ne voit rien. Pape Diouf, il est parti, il n'y a rien. Il n'y a rien, même que quelqu'un vienne avec de l'argent. Mais il faut trouver quelqu'un qui sait, un bon directeur sportif, qui sait faire des bons choix. Et avoir un projet qui est mis en place pour que Marseille puisse même jouer les seconds rôles, je dis troisième ou deuxième en championnat. Mais on ne voit pas ça venir. Donc quelque part, pour moi, que l'argent ou pas, il faut quelqu'un qui connaît le football, qui peut s'investir. Mais même, je suis en train de dire ça, et on voit autour de Marseille des personnes comme...
Il y a Benassia qui est là maintenant.
Basile Boli, les Dimeco, tout ça, ils sont là. On peut faire revenir des gens, des anciens qui ont joué dans le club. Ils connaissent bien le club.
Mais il ne s'agit pas de faire venir des gens pour faire venir des gens. Il faut qu'on te laisse travailler.
Ouais.
C'est toujours pareil. Voilà. On ne laisse pas les gens travailler.
Et le meilleur de tous, ils l'ont tiré. Le meilleur de tous, leur meilleur joueur de l'histoire, leur meilleur entraîneur quasiment, ou en tout cas un de leurs meilleurs entraîneurs d'histoire, ils l'ont viré. Hein, parce que les supporters ont décidé de le tirer.
Tu parles de qui ?
Comment ?
En l'occurrence, tu parles de qui, là ?
De Didier Deschamps.
Ah oui, voici un exemple.
Didier Deschamps, ils l'ont viré. Il est revenu, il a gagné deux ou trois coupes de la Ligue.
Oui, mais quand tu fais venir Didier Deschamps, tu apportes de la rigueur, tu apportes... du professionnalisme, tu apportes beaucoup de cadre. Ça n'arrange pas, ça. Les gens, ils aiment bien quand c'est un peu borderline. Je suis désolé.
Mais ouais, ils aiment bien.
La
vérité. Bien,
la preuve, quand il est arrivé, il est, c'est les derniers titres. Hein.
Ouais,
les derniers titres, c'est 2010 de mémoire.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Mais alors,
depuis, il n'y a plus rien. Et avant ça, il n'y avait plus grand-chose depuis longtemps. Il arrive,
c'est pour ça que,
il fait champion,
c'est pour ça quand, tout à l'heure,
il fait Coupe de la Ligue, il part, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'il y a une méthode quand même qui paye, qui n'est pas mise en place...
Mais comme disait tout à l'heure Ibrahima, je crois, pour le Paris Saint-Germain, il disait l'adversaire du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain, mais l'adversaire de l'OM, c'est l'OM. Je suis désolé. Je veux dire, Malik, toi, tu supportes un peu le club, quoi, donc t'apprécies.
Non, je
ne suis
pas supporter. Bon, je suis présentateur d'au bout du foot.
Tu apprécies ce club que moi,
pas dans l'exercice de mes fonctions.
Samuel Gigot, par exemple, il existe. Parce qu'il monte les muscles, parce que quand c'est chaud sur un endroit, il y va, il pousse un peu, il dit machin, oh, l'OM. Mais sinon, c'est un joueur qui a pas sa place dans le top 10 de Ligue 1, quoi. Je veux dire.
Il y a l'autre CRS aussi, là, Rongier, là.
Il est blessé, là.
Du coup, ouais, il y a lui aussi, il fait le pompier de service à chaque fois. Bah, il dit bien, de toute façon, il aurait bien été un fonctionnaire de la ville. Hein. Il l'a préféré.
Ouais, mais donc c'est ça qu'il y a. Gattuso, il arrive.
On a un dernier sujet après, assez intéressant, les amis. On va prendre l'avis de
Philippe. Je pense que de toute façon, Lyon et Marseille, c'est le même combat. Longoria, c'est exactement pareil. C'est des businessmen qui connaissent rien au foot. Longoria, c'est le recordman des transferts. Je parlais de l'affaire Klaus la semaine dernière, c'en est exactement le symbole. Donc voilà, de toute façon, et puis qu'un joueur ne mouille pas le maillot, bah, s'il ne se sente pas entouré de gens qui sont avec des véritables projets sportifs, qui sont des professionnels, ils ne mouilleront pas le maillot, c'est tout, ça vient, voilà. Le problème, c'est qu'il y a trop maintenant de présidents qui sont comme ça et qui font couler les clubs. Hein,
et du coup, les
Bordeaux,
joueurs, ils évoluent pour te répondre
Lyon,
un peu. Hein.
Et puis,
Manchester United.
Pour te répondre
tout,
un peu.
C'est tout,
c'est tout. Dans ce type de fonctionnement,
Tapie connaissait le foot,
les joueurs
le foot.
Évoluent de façon individuelle, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a plus de collectif. En fait, tu te dis, de toute façon, on ne va rien gagner ensemble.
On pense
donc
sa
moi,
carrière.
J'essaie de donner le meilleur de moi-même individuellement comme je peux. Ouais, et derrière, je me fais un transfert. Parce que dans tous les cas, que je fasse bien ou pas bien ou moyennement, je partirai dans 6 mois, dans 1 an maximum. Ouais. C'est ça, en fait.
Ouais.
Donc, il n'y a aucun projet club. C'est des projets individuels,
ouais.
Amadou.
Ouais, c'est du trading. Bah, en fait, je pense qu'au début, Langora, c'est quelqu'un qui devait être un peu sur les paris. Il attendait des choses, ça fonctionnait un peu. Et après, voilà, bah, si un joueur il réussit bien, au final, on va essayer de le revendre un peu cher. Ouais, voilà, comme tu as dit tout à l'heure. S'il n'est pas bon, on voudra s'en débarrasser aussi. Si on peut gratter quelque chose pour le vendre à une équipe du ventre mou de Ligue 1. Et c'est vrai qu'après, les entraîneurs aussi, ils ont la pression parce qu'on a besoin des résultats tout de suite. Et là, bah, Marcelino, il a fait quoi? Il est resté 6 mois. Ils ont pris Gattuso et là, Gattuso, ça commence à pas aller.
Il a resté deux mois
à Marcelino, ouais. Je suis gentil.
Il a flippé, il est parti.
Ouais,
Merci non, les amis. À présent, Stéphane, on va progresser. On a un dernier sujet, justement, la question au bout du foot. La question au bout du foot. L'IFAB, l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du football, prévoit d'introduire le carton bleu dans le football professionnel, expulsant un joueur du terrain pendant 10 minutes pour les fautes d'anti-jeu ou des protestations. Cette nouvelle mesure suscite-t-elle votre soutien ou votre opposition dans le monde du football? Mon cher Philippe.
Moi, je suis entièrement d'accord. Non, entièrement d'accord. Ça se fait dans beaucoup de sports collectifs.
Carton bleu.
Ouais, ça peut avoir des.
Tu sors 10 minutes.
Des incidents. Oui, oui. Je pense que. Oui, oui. Moi, je suis entièrement pour. D'ailleurs, Monsieur Dorian l'avait dit qu'ils étaient en train de plancher dessus. Donc, moi, 100% pour.
Alfred.
Moi, pour moi, ça va pas. Je vois pas l'utilité parce que de toute façon, un acte anti-jeu est sanctionnable. Donc, pour moi, le faire. Quelqu'un qui a fait quelque chose de grave peut pas revenir encore en cours de jeu.
Non, mais le rouge existera quand même toujours, hein.
Un coup de sang, un coup de sang par exemple,
le rouge,
tu prends un carton bleu, tu sors 10 minutes parce que t'as été véhément par exemple vis-à-vis de l'arbitre.
Non, non, ça enlèvera pas le rouge.
Oui, face à l'arbitre, oui, c'est sanctionnable, mais bon. On est resté pendant des décennies habitués au carton rouge et au carton jaune. Donc,
toi, t'es un traditionnaliste.
On était habitué aux 3 changements aussi, maintenant il y en a 6 par match.
Oui, ça, je peux partager ton avis sur ça, mais un carton bleu. Je sais pas, dans le football, là, c'est pour le handball.
En plus, bleu, ils auraient dû mettre une couleur un peu plus.
Et là, ton sentiment.
Ouais, je voulais rebondir sur ce que Brahim disait. Si maintenant, il y a 6 changements, bien sûr, moi, je suis pour ces 6 changements-là. Maintenant, ça ramène vraiment quelque chose. Tu n'avais pas vraiment une large manœuvre avec 3 changements. T'imagines, tu te dis à chaque fois, je peux avoir un blessé de dernière minute. Tu n'as pas une vraie manœuvre. Moi, je pense que 6 changements, c'est très bien. Mais le fait du carton bleu, pour moi, c'est une grosse connerie. Il y a beaucoup de problèmes dans le foot qui sont à différents endroits, si ce n'est des cartons bleus, sortir un joueur pendant 10 minutes. Mais sérieusement, et c'est vraiment ça, je me rappelle plus qui l'avait dit, mais les gens essayent de faire accélérer, de faire vivre leur sport. Mais vous voyez, moi, il y a un moment là, je raconte un peu ma vie, hein, mais je vous dis, ça fait à peu près un an, moi je suis tombé vraiment amoureux de la NBA, vraiment amoureux de la NBA, et je me dis vraiment, ces Américains là, c'est eux qui ont raison, parce que quand ils payent pour aller voir un match de NBA, Ils vont voir des paniers. Ils vont voir des paniers rentrer. Nous, on peut payer un match de football pendant 90 minutes. On va s'asseoir, on va voir des gens qui se roulent par terre mais qui ne mettent pas un seul but. Il n'y aura pas de spectacle. Donc, du coup, c'est nous les fous, vraiment. Et là, on va encore ralentir le jeu avec des cartons bleus. Carton bleu pendant 10 minutes. Mais généralement, l'équipe même, elle est en train de gagner. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ils vont gagner du temps. Ils vont gagner du temps, ils vont se rouler par terre pendant 3 minutes, 4 minutes, ils vont s'inventer des problèmes. Mais bien évidemment, ils sont à 10. C'est ce qu'ils vont faire. Mais logiquement, franchement, c'est, pour moi, ce n'est pas une bonne idée du tout.
Vraiment.
Après, moi, j'ai une question. Est-ce que ça se limite qu'aux joueurs de champ? Parce que si un gardien prend un carton bleu, ce n'est plus la même histoire, là.
Tu fais un changement?
Ouais, bah
tu fais rentrer l'autre gardien pendant 10 minutes, ouais, tu le fais ressortir. Et ça compte comme un changement ou pas alors?
Donc
il faut arrêter.
On vous entend pas, les amis, pas tous ensemble.
Donc c'est pour ça que j'ai mis quelques réserves sur ce carton. Parce que si ça se limite. C'est comme elle l'a dit, ils peuvent tous se rouler. Après, ça peut être bien aussi.
Il y a un truc, c'est que la FIFA a bien dit, ce n'est pas encore entériné. C'est une expérimentation. Amadou.
En fait, en soi, c'est pas une mauvaise idée en fait. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des joueurs qui mériteraient de sortir quelques minutes, mais après en fait on va perdre encore plus de temps, on va rajouter du temps additionnel et ce qui peut se passer, si un joueur il sort pendant 10 minutes, le mec il va se refroidir, c'est-à-dire il rentre, boum, il se blesse.
Il n'avait qu'à ne pas faire le con.
Non, je veux dire, ça va pas ranger les clubs, quoi.
Mais c'est pour ça qu'il faut se tenir à carreau aussi.
Après 10 minutes, c'est peut-être déjà beaucoup, 5 j'aurais eu.
Tu mets un rouge, Malik, tu mets un rouge. Tu ne te tiens pas à carreau, tu fais tout ce qu'il dit pour le. Moi, je suis d'accord avec Elad, je vois pas l'intérêt de ce carton. Le foot, Philippe, j'ai entendu ce que tu as dit, et tu n'as pas tort. Dans plein de sports, ça peut marcher. Dans plein de sports. Mais dans le foot, ça ne marchera pas. Parce que dans le foot, déjà, on a introduit la vidéo. Je suis pour la vidéo qui a diminué 70% des erreurs. On parle 50 fois plus des 30% restants dans les journaux.
Stéphane, Ibrahima n'est pas d'accord avec toi.
Ah bah non, parce que la vidéo, déjà, je sais pas quand est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas. Donc je sais pas si ça limite tant les erreurs que ça, finalement. Jusqu'aujourd'hui, je sais pas quand est-ce qu'on peut utiliser la vidéo ou pas.
Là, c'est tout un autre débat, mais on va pas revenir, ça soit toi ou même les journalistes qui commentent, les commentateurs et tout. Là, il y a 90% des gens qui connaissent pas les règles et l'utilisation. Donc effectivement, et même des fois, peut-être les arbitres eux-mêmes ne le savent pas. les règles.
Mais c'est grave alors.
C'est pas si grave que ça finalement.
Grave, mais c'est très grave, notamment pour ceux qui commentent aussi les images. Quand tu vois là sur les derniers matchs, moi je dis toujours, je suis très très foot français. Donc par exemple le match, ne serait-ce que hier, l'expulsion de Dante hier contre truc. Quand tu entends un consultant qui dit ah ben non, bah il a fait le tac, après il prend le pied, il peut pas dire je suis désolé, il peut pas s'arrêter, machin et tout. Bah oui, mais bon, il est parfaitement justifié son carton rouge contre PSG, je crois PSG Lille. Il y a un carton pareil qui aurait dû être sorti. Pour quelqu'un. Bon bref, au-delà de ça, je veux dire, on va en parler tout le temps, quoi. Hein, mais là, c'était pas un bleu qu'il fallait, c'était un rouge direct qui passe par rapport à ce qu'il a fait. Puis je comprends pas pourquoi il fait ça. Puis il y a 5 minutes, l'autre il a fait ça, il a dit comme ça, et puis il a pas eu de carton et tout. On va repartir dans des histoires. Vraiment, c'est jaune ou c'est rouge, quoi. À la limite, ouais. Essayez de vous imposer pendant 3 mois. Le mec, il vient parler à l'arbitre. Tu parles à l'arbitre. T'es pas capitaine. Tu parles à l'arbitre. T'as carton rouge. Et ben les mecs, ils parleront plus à l'arbitre.
Bah vous savez que dans l'histoire du foot, hein, les cartons rouges et jaunes ont été inspirés justement des feux tricolores notamment. Donc, mettre un carton entre le rouge et le, ouais. Et bah, le jaune, orange, ouais. Un orangé, qui est synonyme de bleu.
Non,
pour le
change la couleur parce que Malik, moi j'ai envie de te dire, je jouais en amateur et il y avait les cartons blancs. Il y avait les cartons blancs en amateur et je me suis pris un carton blanc, je suis sorti pendant, je crois que c'était 10 minutes. 10 minutes, pendant 10 minutes, tu sors et ensuite tu rentres.
C'est une explosion temporaire, c'est ça. Ouais, bah, pareil.
C'était une grosse connerie, vraiment. Ah moi, ouais je, bien évidemment. Ils l'ont tenté en amateur. Ça n'a rien changé. Et en plus, et non, on m'a mis un carton blanc, soi-disant pour une faute.
Ouais. En plus,
tu vois, c'était ça, c'était pour une faute. Oui, non, c'était...
Ouais, c'est vrai, imaginons qu'en plus, par exemple, il y a un joueur qui simule qu'on lui a fait une faute, alors qu'il n'y a pas faute, l'arbitre il sort carton bleu, l'autre sort pour rien, ils vont dire, attendez, on va regarder la VAR, faut voir si... C'est vrai que ça...
Oui, c'est ça,
au plus casse-tête, ouais.
On peut perdre facilement 20 minutes pour voir si on...
T'as additionnel 20 minutes ou 30 minutes de temps.
Stéphane, tu disais quoi, Stéphane?
Moi, je pense que le foot n'est pas du tout adapté à ce troisième carton, je pense absolument pas.
Mais si c'est pas bon, on va revenir en arrière, mais on peut essayer.
De toute façon, il faut le tester. Hein,
il y aura plus des belles histoires.
On peut toujours essayer. On a vu la mort subite, par exemple. Non, comment on appelle ça, le but en or. On l'avait testé. La France a gagné une Coupe d'Europe avec. Et puis après, on a arrêté.
Même Coupe du Monde.
On a vu que c'était trop brutal.
Nous, on a gagné une Coupe du Monde et une Coupe d'Europe avec.
Les deux, les deux.
On a vu que c'était trop brutal, je pense. On a dû l'arrêter. Donc, si on expérimente le carton bleu, si effectivement.
C'est pas la même chose.
Le carton bleu, mais surtout, lui soit du goal. C'est ça qui est très important.
Ouais, c'est vrai que.
Mais on peut te dire que c'est. On peut te dire, oui, c'est que des joueurs de champ.
Mais c'est pas juste,
c'est pas le football.
C'est le juste et le goal. Le goal sera soumis uniquement au jaune et rouge.
Non, mais Magic, actuellement, quand il y a un gardien qui est expulsé, on fait pas rentrer un joueur de champ.
Non, c'est l'entraîneur qui se débrouille à faire sortir un joueur pour faire rentrer un autre gardien.
Faire rentrer voilà, à la dure.
Voilà. C'est un gardien remplaçant qui rentre, c'est un joueur de champ qui sort.
Donc pendant sa place pendant 10 minutes.
Pendant 10 minutes, on peut choisir.
Ah bah je sais
pas. Non, mais les amis, ça peut être intéressant aussi. Hein.
Franchement,
un goal qui sort pendant 10 minutes.
J'ai beau retourner l'histoire dans tous les sens. Si, ils ont tenté, moi je disais ça fait 10 ans que je jouais au foot. Il y a 10 ans. S'ils ont tenté ça, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ils le ressortent, c'est que ça n'a pas marché.
Mais regarde, Allemagne-France, 86. Baptiston, si Schumacher sort pendant 10 minutes, ça peut faire quelque chose.
Ah, j'ai pas la rêve du tout.
C'était Séville, Euro 82.
Ça permet simplement de te reposer, c'est tout.
Carrément.
Ça va te reposer, de revenir avec des forces.
Non, mais si le gardien sort, il est remplacé par un joueur.
Ou des risques de blessure. Parce que pendant 10 minutes, ton corps se refroidit, tu rentres brusquement.
C'est ça que j'ai dit tout à l'heure.
Non, non, ça, on s'en fout. C'est à toi de te chauffer sur le bord du terrain. Et t'avais qu'à ne pas être offensant vis-à-vis de l'arbitre ou d'un adversaire éventuellement. Rapidement,
il peut y avoir les débats sur si le joueur a insulté l'arbitre ou pas. On va faire qu'on va lire sur les lèvres d'un joueur. Enfin, ça va se passer comment?
Tous les jours, les joueurs.
Ouais, c'est à l'appréciation de l'arbitre comme une faute.
Chaque fois, les joueurs ont mis les faits.
Oui, Stéphane, tu disais rapidement.
Je disais juste que si on va à ce point-là, on n'a qu'à faire aussi comme au rugby, c'est-à-dire que tu as le droit de rentrer et de sortir et de re-rentrer.
Moi, je pense qu'on en prend le chemin lentement. Mais sûrement. Merci en tout cas les amis d'avoir été aujourd'hui présents dans Au bout du foot, c'est déjà fini. 21h58 sur la pendule de Montpellier FM. Léo et Jason Lindor réalisaient Au bout du foot. On salue Alfred, on salue Philippe, on salue Ibrahima. Amadou, merci. Elhadj, merci. Et retenez que Elhadj est désormais fan de NBA. Salut. Ciao.